c'est Jean-Marc.
Si, on voit la paix tout à l'heure.
Bah écoutez, je vous propose de poursuivre cette journée. En plus, quand on commence, ça fait venir les retardataires, donc c'est très bien. Donc, bienvenue. Bon, un certain nombre étaient ce matin, je vais en dire un mot avec nous. Donc, bienvenue à cet après-midi de réflexion sur les questions de climat. Je laisserai la parole à Alfredo Penavega, qui est le directeur scientifique de l'Institut international de recherche politique de civilisation, présidé par Edgar Morin, dont le siège est ici à Poitiers, pour à la fois contextualiser et présenter nos trois intervenants de cet après-midi, Ami Dahan, Elimar Nascimento et Tyler Falk, qu'on a eu le plaisir d'entendre ce matin sur quelque chose d'un peu plus... ciblé. Donc, en deux mots, je vous rappelle que vous êtes ici à l'espace Mendès France dans un pôle de culture scientifique, technique et industrielle, qui est en fait un pôle de diffusion de la connaissance. Le sens du travail de cette maison, ce que j'expliquais à des amis à l'instant, là, c'est que en fait, en l'espace de 20 ans, la notion de diffusion des sciences, elle a largement évolué. Il y a un peu plus de 20 ans, les scientifiques étaient extrêmement motivés pour diffuser les sciences dans une acception de vulgarisation. C'est-à-dire ceux qui savent viennent à la tribune, dans la salle on écoute, on pose des questions, tout le monde rentre chez soi, on est plus ou moins content, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc le côté vulgarisation, c'est une démarche qui est importante parce qu'elle rappelle les éléments d'information et les concepts scientifiques et technologiques. Pour autant, une vulgarisation sans mise en débat, sans appropriation citoyenne, collective, n'a pas de sens. N'a pas de sens, du moins pour une institution comme celle-là. Donc l'idée depuis une quinzaine d'années, c'est que l'espace Mendès France puisse s'emparer de sujets de société, au cœur desquels les sciences et les techniques, les technologies de l'information étant venues entre-temps, sont bien entendu complètement impliquées. Donc, expliquer, c'est une chose. Permettre une meilleure compréhension, c'en est une autre. Mais la question de l'appropriation citoyenne, c'est aussi une façon de préparer ce que j'appelle moi le passage de témoin entre les décideurs publics du moment et les décideurs publics du futur. Parce que ce futur, il se fait aussi à l'aune de ce que les sciences et les technologies nous apportent, de bien comme de moins bien. Et quand je parle de bien et de moins bien, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas un jugement moral, mais simplement, on a pris conscience dans un monde complexe à quel point des solutions avaient forcément des effets secondaires. Donc, c'est tout cela dont il faut discuter. Donc, l'espace Mendès France a, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, fait évoluer son rôle en essayant de garder sa place de médiateur et de vulgarisateur le meilleur possible, mais surtout en organisant des débats et surtout en faisant remonter du terrain ce qu'on appelle... la connaissance populaire qui permet une confrontation avec la connaissance académique et qui donc permet une meilleure implication locale. Deuxième aspect par rapport à l'espace Mendès France, c'est son implication régionale. Quand je suis arrivé ici, voici une petite vingtaine d'années, l'espace Mendès France recevait dans ses murs 17 000 personnes. Les chiffres qu'on a annoncés voici quelques mois, c'est 110 000 personnes touchées par l'espace Mendès France, dont un peu plus de 50 000 en région sur plus de 800 communes. Quand je dis des communes, c'est y compris des communes de 300 à 400 habitants, au sein desquelles, à travers une bibliothèque tenue par des bénévoles, à travers une salle des fêtes et des élus impliqués, on a réussi à monter des événements qui ont permis de mieux rapprocher à la fois les thèmes scientifiques de nos concitoyens, mais également de faire œuvre utile en direction des élèves, des parents d'élèves. Hein, j'en veux pour preuve les animations qu'on a pu monter en Sud-Région, avec des scientifiques de l'Université de Poitiers venus à la rencontre des collégiens pour leur parler des filières, des métiers et de leur futur. Voilà. Donc, l'espace Mendès France a donc développé toute cette problématique. Dernier point, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui réunis, régulièrement, nous mettons en œuvre des journées qui permettent... comme ça va se passer cet après-midi, comme ça s'est passé ce matin sur un aspect territorial beaucoup plus ciblé, des échanges libres et ouverts à partir d'une prise de parole d'experts, d'une prise de parole de porteurs d'une connaissance particulière sur un thème particulier. Donc aujourd'hui, on parle de climat, de représentation, de rapport à la... à un territoire. Donc l'idée, c'est que l'Espace Mendès France régulièrement, mais dans la salle, certains universitaires qui ont pris l'habitude d'utiliser cette maison à cet effet. Donc nous montons des soirées, des journées d'études, des temps de rencontre, des débats autour de films. Voilà, donc on a essayé de développer une série d'actions qui permettent aux chercheurs et au public de s'investir sur des thèmes plus pointus, un peu plus compliqués parfois. Et il n'y a pas l'affiche, là, mais il y a très récemment, avant l'affiche sur les vaccins, puisqu'on inaugure l'exposition demain soir, il y avait l'affiche sur les nanotechnologies. L'exposition sur les nanotechnologies a été préparée pendant 2 ans. Nous l'avons produite in extenso. Elle a été récemment rachetée par le comité interministériel d'information sur les nanotechnologies. Et un effet secondaire tout à fait étonnant, c'est que la Chambre de commerce et le comité de développement de Charente nous ont demandé de monter un pôle autour des nanotechnologies et de la formation des ingénieurs. On n'aurait jamais pensé à ça. Donc on a développé autour de cette exposition un réseau d'expertise nationale, voire internationale, qui était mis au service d'un territoire dans son ensemble sur un pôle très particulier qui est celui des nanotechnologies, qui va envahir nos économies dans les années qui viennent, avec tous les effets secondaires qu'il y a derrière. Donc voilà, donc on a monté des animations autour de ça. Donc aujourd'hui, très concrètement, on parle de climat. Ça n'est pas un effet de mode pour nous. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ces thématiques. Nous avons produit une exposition il y a 2 ans qui s'appelle « Les temps changent », qui itinère en région sur les changements climatiques, avec ce qu'on fait d'habitude, une meilleure connaissance de ce que sont les mécanismes de la Terre, une meilleure connaissance de l'histoire des climats et une meilleure connaissance de ce qu'est notre région à l'égard de ce changement climatique. Et c'est là où je retombe sur mes pattes et où je vais passer la parole à Alfredo, en disant simplement que le programme de recherche que l'Institut international a pris en compte sur représentation et changement climatique est directement issu de cette discussion. Voici un peu plus de 2 ans maintenant. Et l'idée a été que derrière la présence de chercheurs, la discussion avec des décideurs politiques, on puisse créer ce lien entre recherche et décision publique qui est aussi important pour nous que la diffusion auprès des publics. Voilà, donc terminer en vous remerciant pour vos contributions qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont autant d'importance que celles qui vont être faites par nos intervenants donc venus de loin. Brésil pour notre ami Elimar. Des États-Unis pour Tyler, ami est venu d'un peu plus près, mais bon, voilà. Donc merci en tout cas de votre présence à tous les trois. On a quelques représentants d'associations, Poitou Charentes Nature, présente quelques universitaires éminents et brillants. Nous avons Serge Morin de la région Poitou Charentes qui doit nous rejoindre là incessamment sous peu. Le président de l'INRA à Poitou-Charentes, merci d'être là, Jean-Marc. Météo France, donc on vous accueille. Votre prédécesseur était vraiment un averti de la maison. Il a même fait de la musique dans cette maison, donc vous viendrez peut-être chanter, je ne sais pas, on verra avec vous. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Et encore une fois, je le dis régulièrement, l'important, c'est ce qui se passe dans la salle, dans son entier, la prise de notes, la reprise de tout ça, qui fera l'objet d'un compte-rendu qui sera mis en ligne sur le site de l'Institut, puisqu'on a quelqu'un qui nous a rejoint, Stanislas, qui est là pour faire du débat d'aujourd'hui un sujet d'information et diffusion. Voilà, Alfredo, je te laisse la parole.
D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci, Didier. Et bienvenue à la suite de nos discussions. Depuis ce matin, nous sommes ensemble pour essayer justement de faire le lien entre... Et ça peut apparaître maintenant une banalité, mais c'est toujours une réalité, entre le local et le global. Et l'Institut, il a intérêt à la fois pour les deux. La preuve, c'est que nous avons, et Didier vient de l'évoquer à l'instant, nous avons un projet de recherche dans la région pour essayer justement d'apporter nos connaissances, nos compétences dans une réalité territoriale. Donc, c'est du local. Et pour nous, c'est très important. Et d'autant que, puisque nous sommes implantés dans cette région, Nous voulons effectivement faire profiter nos amis, nos collègues chercheurs et nous-mêmes pour essayer justement de nous rapprocher les uns et les autres à travers nos compétences, à travers des projets scientifiques. C'est la raison pour laquelle nous essayons justement de pouvoir travailler en commun. On ne vient pas pour vous imposer un projet de recherche tout prêt, un projet prêt à porter, nous allons faire ça, ceci. Non, on travaille ensemble. Donc, beaucoup de choses se construisent ensemble. Et cette réunion de cet après-midi fait partie également de notre démarche. Et de pouvoir dialoguer avec le monde scientifique de la région, mais aussi de pouvoir dialoguer avec le monde politique et les décideurs de cette région. Alors, comment on peut passer justement d'une approche globale à une approche, d'une approche locale à une approche globale? Et c'est très simple. Nous avons fait un diagnostic cet après-midi, ce matin, concernant une question qui concerne tout le monde. Et c'est la question de la problématique du changement climatique, mais vue à une échelle plus petite. En même temps, nous, en tant qu'institution, nous réfléchissons également au niveau plus global, sans délaisser l'aspect local. Et l'aspect global, c'est quoi? C'est essayer justement de voir si, dans les réflexions que nous pouvons apporter ici et ailleurs, si nous avons des alternatives face à un modèle dominant, un modèle dominant économique, un modèle dominant politique. Et nous avons des hypothèses. Ces hypothèses, elles sont souvent débattues dans le cadre des universités européennes internationales, qu'on appelle maintenant Université internationale d'été ou d'automne. Là, on va faire l'hiver. Donc, on suit les saisons. C'est changement climatique, justement. Oui. Donc, on a commencé par les universités d'été, on l'a fait au printemps, maintenant on l'a fait à l'automne et maintenant on fait l'hiver. Donc vous voyez, dans le cadre de ce contexte des universités internationales, c'est là, je peux dire, et mes collègues vont pas, et je pense qu'ils vont être d'accord avec moi, c'est là où on met en discussion, pas seulement les hypothèses, mais surtout les compétences et puis les expériences de chacun. Tout simplement pour vous rappeler, c'est un réseau qui réunit quand même pas mal de chercheurs, une centaine de chercheurs qui sont constamment sollicités. Donc, il y a quand même une centaine de chercheurs qui ont des expériences, qui ont des travaux et qui peuvent apporter quelque chose de différent. Eh bien, on s'est mis un défi. Et le défi est quand même un peu, je dirais, oser, puisque nous sommes une institution très récente, on a 3 ans d'existence, mais on a depuis très longtemps une existence en tant que réseau, depuis 10 ans, et on s'est mis un défi. Il faut absolument de pouvoir à la fois avoir de la réflexion globale, théorique et politique, il faut aussi pouvoir justement que cette réflexion puisse être mise, je dirais, à la tester, à discussion dans les territoires, notamment là où nous sommes présents et ailleurs, puisqu'il y a aussi des chercheurs qui font partie de notre réseau qui essayent également de pouvoir amener ce type de réflexion dans leur spécificité régionale, nationale. Donc, voilà un défi important et qui est croisé avec la réalité mondiale. Quelle est aujourd'hui la réalité mondiale? Nous sommes tous sensibles à toutes les questions que, depuis très longtemps, on essaye de trouver des réponses, notamment avec les questions de l'adaptabilité dans le cadre du climat, la question des nouveaux modèles de développement dans le cadre de l'épuisement du développement classique, et des notions telles que les notions de la croissance, décroissance, enfin, des différentes notions qui sont aujourd'hui débattues dans le monde scientifique et politique. Donc, dans ce contexte, on s'est dit, voilà, puisque nous avons maintenant cette perspective, essayons de voir qu'est-ce que nous, on peut apporter à la fois sur le local et sur le global. Sur le local, on l'a vu ce matin. Sur le global, on s'est dit, voilà, puisque nous travaillons depuis très longtemps sur les questions, les critiques au développement, les notions des indicateurs, la question du changement climatique, la problématique des solidarités, la problématique de nouvelles politiques de civilisation, une série de thèmes qu'on a discutés pendant ces cinq dernières années, ça fait six qu'on est implanté ici en Poitou-Charentes, puisque nous avons déjà capitalisé quelque chose. Qu'est-ce que nous, on peut apporter à la discussion concernant les 20 ans de Rio, du sommet de Rio, donc 20 ans, Rio 20 ans après. On s'est dit, voilà, on a quand même quelque chose à dire. La raison pour laquelle on s'est mis quand même comme défi d'essayer justement de pouvoir réfléchir sur cette question-là, faire venir des différents chercheurs pour voir comment justement on peut apporter, pas des réponses toutes prêtes, mais au moins d'essayer de poser des questions pour ouvrir la discussion, pour faire des diagnostics et pour finalement apporter quelque chose sous forme des propositions concrètes, pas uniquement de la réflexion purement épistémologique et théorique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment crucial, puisque nous avons cet effort de pouvoir développer nos réflexions au niveau local, mais nous avons aussi un défi au niveau plus global. Et c'est la question que nous allons traiter cet après-midi. C'est une difficulté, parce qu'il faut aussi tenir compte des deux. On ne peut pas délaisser et dire, voilà, nous, on ne s'intéresse qu'à ça, et pendant ce temps-là, le monde continue, on s'en fout. Donc, c'est difficile. Et parfois, ça peut paraître une banalité, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Il faut absolument manier les deux. Et je pense que l'originalité de notre projet, c'est qu'on a cette capacité, par la composition du réseau, puisque nous avons des chercheurs qui viennent des différents pays, on peut manier les deux. On peut écouter, on l'a écouté ce matin, on va l'écouter tout à l'heure, un chercheur de très haut niveau américain, qui vient avec son expérience américaine, des chercheurs brésiliens, on a ici Elimar, nos collègues français, des Indiens, des Africains, des Latino-Américains. Bref, on a cette possibilité, puisqu'on l'a, mais profitons-en. Donc l'idée de cet après-midi, cette chose que je vous propose, c'est qu'on essaye maintenant de monter d'un cran, puisqu'on était à une échelle plus locale, plus régionale, plus territoriale, plus nationale. Essayons de voir comment ces questions qu'on a traitées ce matin se positionnent par rapport au débat international. D'accord. Et c'est un débat qu'on va retrouver à la prochaine réunion que nous allons faire à Brasilia d'ici un mois. Donc, Elimar, qui est là, va vous expliquer comment nous pensons justement prolonger la discussion que nous avons eue à Dijon et que nous allons avoir le mois de février à Poitiers. Comment on fait le lien de tout ça et quelles sont les pistes et quelles sont les réflexions qui pour nous sont importantes. Donc c'est dans ces contextes-là que nous souhaitons dialoguer avec vous, à la lumière des discussions que vont nous proposer nos trois intervenants. Pour contextualiser, nous sommes dans ce processus. Il y a un processus qui a démarré à Dijon le mois de juin, pour préparer Rio plus 20 sur des thèmes qui sont des thèmes qui nous intéressent directement, mais qui en même temps ils vont être traités dans cette conférence mondiale. Nous avons nous nous sommes proposés justement d'y arriver à cette conférence avec un document. Donc c'est important de pouvoir prendre votre point de vue, les enregistrer, et voir après, travailler après, parce que c'est ça l'idée, et voir qu'est-ce qu'on peut amener à cette conférence. Ça peut paraître peut-être un peu prétentieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Nous allons élaborer un document. Ce document, c'est le fruit des discussions que nous avons depuis quelques temps. Principalement, nous allons mettre l'accent sur les discussions que nous avons eues ces derniers mois. Et nous allons rendre... Allez voir la présidente du Brésil, rendez-vous a été pris pour le 27 mars, même mars-octobre. Nous allons aller voir la présidente du Brésil en délégation et nous allons lui rendre un document. Voilà une réflexion faite par un réseau des universitaires en lien avec vous, avec la société civile, avec les élus, avec les gens qui viennent dans nos universités. Donc, on est en quelque sorte à la fois les porteurs d'une nouvelle proposition différente, mais en même temps, on est les porte-parole des discussions qui ont eu lieu ici depuis 5 ans. Et l'occasion est magnifique. On n'aura pas une 12e occasion comme celle-ci. Donc, nous avons décidé de prendre ce défi et l'amener jusqu'au bout. Et je pense que on va le faire. Et on est bien parti. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour cet après-midi? Sans aucune... Il n'y a pas de formalité. C'est ça qui est bien aussi dans cette maison. C'est que les choses, ça se passe aussi vraiment d'une manière informelle. Tout en étant très... C'est rigoureux. C'est pas du tout des choses préparées comme ça. Mais je vous propose qu'au cours de cet après-midi, on écoute nos 3 collègues qui vont nous amener apporter une réflexion, qu'on essaye de contextualiser par rapport à notre vision et par rapport à notre projet, et qu'à partir de là, on puisse établir un dialogue avec vous, une discussion. Tous les échanges que nous allons avoir ici ensemble sont enregistrés. Pour nous, c'est très précieux. Même si on est en petit comité, c'est prévu, c'est fait pour. On n'avait pas envie de faire aujourd'hui quelque chose de plus grand, donc c'est comme ça, c'est prévu pour travailler ensemble. Et puis, on va essayer, nous aussi, d'apporter quelque chose des discussions que nous avons eues depuis ces 5 dernières années, principalement les discussions que nous avons eues à Dijon, dans cette première université itinérante Rio plus 20. Que je pourrais plus tard, au moment de la discussion, montrer quelles sont les pistes et quelles sont les hypothèses avec lesquelles nous travaillons pour les prochains mois. Donc voilà ma proposition. Et je vais demander d'abord à Ami de venir et de nous faire son intervention qu'il avait prévue, voir comment elle voit les choses. Hein. C'est très ouvert, il y a pas du tout, c'est pas cadré, il y a pas du tout on n'est pas sûr. On veut systématiser ensemble, donc on a déjà quelques idées. Et si vous voulez, la discussion va nous permettre justement de pouvoir avancer dans le processus que nous avons plus ou moins élaboré, dans lequel nous voulons nous caler jusqu'à Brasilia, puisqu'après on a Brasilia.
Vous avez une présentation? Non.
Okay.
Venez là.
Un quart d'heure,
c'est ça? Oui,
Une heure. Non, je dois dire que je n'ai pas de présentation parce que je ne savais pas très bien, je n'ai pas encore bien compris quel était le format de la rencontre, etc. Et ce qu'on attendait de moi. Je précise, moi je suis avant tout un chercheur aussi et j'ai beaucoup suivi. Je suis historienne des sciences, de formation, enfin, scientifique d'abord, puis historienne des sciences. Mais sur la question climatique, évidemment, je n'en suis pas restée à l'histoire. Et depuis 10 ans, je suis le processus dans toutes ses dimensions. Donc, je voudrais, et qui est évidemment donc un cadrage et une dimension qui est apparue sur la scène internationale, principalement de façon globale. La dimension locale que nous avons bien évoquée ce matin n'est arrivée qu'ultérieurement et comme une réaction, d'une certaine façon, à la question locale, à la question globale. Et je voudrais, mais très brièvement, retracer cette petite histoire pour montrer où est-ce qu'on en est maintenant. Et peut-être, et pourquoi une réflexion critique de tout ça est nécessaire, pas du tout pour être pessimiste, etc., mais parce que, bon, je crois que nous sommes dans un moment où la réflexion critique est absolument indispensable à tous les niveaux. C'est-à-dire Rio 2012, on sait bien, par exemple, que si on revient au niveau global et à cette petite aperçu historique, revenons sur ça. Bon, on a eu Stockholm 72, la première conférence sur l'environnement et le développement humain, où la sensibilité, la prise de conscience environnementale est arrivée. C'est la première. Et il y a eu un livre de Barbara Ward et Dubos, qui était One Earth, nous n'avons qu'une Terre, et voilà, qui exprimait cette préoccupation environnementale. Et déjà, d'ailleurs, la question climatique était abordée, mais comme une des questions. Et entre 72 et 92, pour diverses raisons, les choses se sont... on sait bien qu'après 72, il y a la crise du pétrole, etc. Et d'une certaine façon, l'alerte environnementale qui avait monté dans les années, fin des années 60, début des années 70, et éventuellement aussi avec le Club de Rome, c'est-à-dire cette réflexion de ce groupe quand même lié aux Européens, et sur le devenir est-ce que les limites de la croissance, est-ce qu'on n'est pas devant les limites de la croissance, cet appel à se poser cette question, toute cette prise de conscience va connaître une certaine régression dans les années 70 avec la crise du pétrole et avec le fait que dans l'agenda, d'autres questions arrivent de façon forte. Et dans les années 80, disons que la crise du pétrole est plus ou moins surmontée et déplacée, et que de nouveau des alertes et des prises de conscience environnementales arrivent avec la possibilité de les inscrire dans des stratégies d'action. Et c'est comme ça qu'il y a d'abord l'alerte sur l'ozone, l'alerte des questions sur la désertification, etc., et la création en 1988 du groupe intergouvernemental sur le changement du climat, qui est le GIEC, qui est le GIEC, avant même la création de la Convention climat. Et à la faveur du sommet de Rio, je ne vais pas faire une analyse de comment est venu le sommet de Rio, mais qui met en œuvre ces conventions sur la biodiversité, sur le climat et sur la désertification principalement. Et donc, à partir de 1994, la Convention climat se met en place, etc. Mais en même temps, et c'est ça sur quoi je voudrais peut-être attirer l'attention, c'est ce que cette conférence de Rio, qui a été quand même un grand moment pour le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre, etc., qui a lancé le thème du développement durable, avec ses trois piliers, social, développemental, développement et environnement, et le fait d'une interaction indispensable entre les trois piliers pour le développement, et l'agenda 21 pour les pays, on peut dire... Comment peut-on dire aujourd'hui, avec le recul, comment peut-on comprendre plutôt que cet agenda, ce cahier des charges, si on peut dire, de Rio 92, a été complètement détourné par la montée du libéralisme à tout craint qui s'est développé et de la financiarisation de l'économie et le fait que beaucoup de ces objectifs ont été complètement mis dans une perspective uniquement financière et de marché. Et en particulier, par exemple, si je reviens à comment le problème climatique a été placé dans l'agenda international à partir de 1994, toutes les années 90 ont été marquées par, évidemment, cette construction du problème, ce cadrage du problème, qui était le protocole de Kyoto. Il y avait plusieurs caractéristiques de ce problème, hein. La séparation entre les pays industrialisés et les pays en développement, le cadrage un peu avec les liens avec la science, c'est-à-dire le GIEC qui faisait l'alerte et qui était censé, d'une certaine façon, nourrir l'agenda politique, nourrir la décision politique, aider à la décision politique. Et puis, ces questions, si on regarde, si on regarde ce processus du problème climatique et sa construction à l'échelle internationale, on peut dire plus, excusez-moi, un troisième caractère aussi qui le marque, ce régime climatique. J'utilise ce mot, c'est un peu un jargon, mais bon, ça veut dire quelque chose très précisément. Ça veut dire un ensemble d'institutions, de règles, etc., qui fonctionnent pour le construire à l'échelle internationale. Or, on peut dire qu'avec la perspective d'une construction complètement top-down, c'est-à-dire, on va se mettre d'accord, hein, une sorte de les 192 pays qui se réunissent, etc., vont se mettre d'accord sur des objectifs de réduction, et puis ça va redescendre pays par pays. Enfin, on va se partager le fardeau, comme on dit. Et c'est les pays industrialisés qui vont se partager. Mais toute cette construction, elle est en échec maintenant. Elle est complètement en échec, malheureusement. Parce que à Copenhague, jusqu'à Copenhague, on a pensé que oui, on progressait, bien que, à mon avis, depuis pas mal d'années, on ne progressait plus du tout. C'est-à-dire qu'on savait que d'abord les États-Unis ne signeraient jamais le protocole de Kyoto. Depuis 2002, ils avaient dit qu'ils ne le signeraient pas. Et d'autre part, la scission entre pays industrialisés, pays en développement, marchait pas non plus parce qu'il y avait les pays en émergence qui étaient de plus en plus importants et émetteurs, et donc certains pays riches, enfin certains pays industrialisés occidentaux ne voulaient plus de cette division-là, avant tout les États-Unis. Bon, voilà un deuxième point. Et même le cadrage scientifique, de la relation des sciences à la politique a connu des grippages. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça prendrait trop de temps. Je peux répondre à la question. Le GIEC a eu un rôle que moi je considère extrêmement positif, mais ça n'a pas été toujours facile pour lui. Il fallait qu'il c'est une organisation intergouvernementale. Ça veut dire que c'est évident qu'elle est liée aux politiques. Et donc elle avait à la fois à défendre sa crédibilité scientifique, puisque c'est une organisation qui donne une expertise scientifique, mais elle devait aussi avoir une légitimité politique. Et elle a été, ça a été difficile. Elle a réussi, je trouve, dans l'ensemble, à défendre, à garder les deux. Mais quand même, à Copenhague, on a bien vu qu'étant donné la difficulté du problème, elle a été en butte à des attaques terribles et qui ont un peu entamer sa crédibilité à l'échelle internationale et dans les opinions publiques et dans les populations qui ne savent plus aussi bien. Enfin, il y a eu un. On peut pas. Les responsabilités ne sont pas directement du GIEC, mais elles sont liées aux contradictions même de cette position-là d'expertise qui est liée aux politiques, etc. Et on sait bien aussi que les scientifiques, ils disent toujours, nous, on fait de la science et on n'a rien à voir avec le politique. Mais les gens comprenaient quand même que le GIEC était lié aux politiques, et à juste titre. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est construit des alliés, il a essayé de faire monter l'alerte à l'échelle mondiale. Et donc, il a fait des alliances avec les ONG, avec Greenpeace, avec toutes les ONG qui vont dans les conférences climatiques, avec les pays en développement. Parce que les pays en développement, il faut bien le dire quand même, que dans les années 90, ils étaient sceptiques. C'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas trop au réchauffement climatique. Ils pensaient que c'était quand même un cauchemar que les gens du Nord avaient fabriqué pour les empêcher de se développer. J'ai entendu et interviewé très longuement des gens du Bangladesh, d'Inde, etc., qui étaient dans les conférences climatiques et qui disaient « Mais non, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Peut-être que ça existe, ce réchauffement climatique, ça ne nous concerne pas du tout. » Mais voilà. Et donc, le GIEC a modifié cet état de choses, puisque aujourd'hui, bon, on peut dire que parmi les gouvernements, il n'y a aucun gouvernement qui ne défend, à part de temps en temps, les pays pétroliers du Moyen-Orient, enfin des Émirats arabes. Aucun pays ne défend cette position. Donc il y a eu un énorme travail du GIEC. Mais néanmoins, voilà la situation. Donc voici les choses ne sont pas faciles. Hein, et je ne vais pas continuer sur ce point, mais ce n'est pas évident. Je peux vous dire que dans des discussions que nous avons éventuellement pour développer, même y compris à la demande des politiques européens, ben c'est pas, l'Europe a été un peu, d'une certaine façon, la bonne élève du processus. Elle a donné des objectifs. D'une certaine façon, elle les a remplis un peu plus que les autres. Bon, d'abord parce qu'elle est en crise économique. Donc, de ce point de vue-là, elle n'est pas en croissance. Donc, elle a rempli ses objectifs. Et puis, le climat a joué un très grand rôle là-dedans. Mais évidemment, c'est pas un acteur politique unifié. Elle n'a pas de véritable stratégie, etc. Et donc, voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, par exemple, la dernière conférence du climat qui a suivi Copenhague, qui est donc la dernière qui a eu lieu à Cancun, bah, les pays en développement et le Mexique qui accueillaient la conférence a joué un rôle énorme pour redonner un petit peu du tonus à la conférence. Mais au point de vue des véritables objectifs de réduction du CO2 et des efforts, bah, ça reste très, très flou. Voilà. Alors, ce que je voudrais, peut-être pour ne pas trop prendre de temps, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu je ne sais pas si... Bon, peut-être certains d'entre vous connaissent un peu ce... il y a quelques années, il y a un sociologue très connu français, Luc Boltanski, qui a écrit un livre avec Eve Capello, une autre sociologue, ça s'appelait « Le nouvel esprit du capitalisme ». Et eux, ils analysaient dans ce livre comment le capitalisme avait intégré dans les années 70-80 la critique qu'on appelait la critique artiste, que eux, ils ont appelé la critique artiste du capitalisme, c'est-à-dire cette critique qui était à côté une nouvelle critique à côté de la critique sociale classique. Cette critique dite artiste était une critique de la hiérarchie, du manque d'autonomie des individus, de l'idée de la liberté d'action, de l'inventivité, etc. Une critique, par exemple, que mai 68 en France a un peu symbolisée. Et alors, ils analysent cette critique, ils l'analysent historiquement, et puis après, ils montrent comment les managers capitalistes et le pouvoir capitaliste a su instrumentaliser cette critique, se l'approprier, la faire sienne et l'utiliser pour se régénérer, pour être encore plus fort qu'avant, pour développer les entreprises encore plus, etc. Et développer le libéralisme encore plus. Et on sait bien, et ça, depuis, on a pas mal de thèses, etc., de gens qui montrent comment, par exemple, le pouvoir nucléaire a su utiliser la critique anti-nucléaire, la critique avec des formes de participation, d'intégration, etc., pour se développer et développer le nucléaire en France, par exemple. Alors, la question, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais c'est quelque chose qu'il faut analyser et dont il faut être conscient. Alors, aujourd'hui, et c'est peut-être ça que je terminerai sur Rio. Rio 2012 a donné comme objectif la green economy, développer la green economy. Alors, la green economy, ça peut être deux choses. On sait très bien que ça peut être le greenwashing. C'est on peint en vert et on fait exactement pareil. Et on développe dans la finance, etc., en mettant un petit peu de marketing, etc., vert. Soit ça peut être, on peut rêver, quelque chose d'autre qui amorce une critique Enfin, on sait que le courant de la critique écologique ou de la critique est présent dans les sociétés occidentales et qu'il est aussi que certaines puissances en émergence et en développement s'approprient ça. Par exemple, c'est vrai que, et là, notre collègue brésilien peut-être me dira des choses, c'est évident que le Brésil se présente. En tout cas, dans les conférences internationales où je suis allée et où j'ai vu beaucoup de Brésiliens et j'ai travaillé avec eux, comme une puissance qui se veut plus verte que les autres, plus soucieuse des réalités environnementales. Bon, tout ça pour dire que l'avenir n'est jamais fermé. Il est toujours ouvert à l'action des hommes. Donc, la question est de savoir si cette critique écologique qui est plus ou moins latente et sous-jacente aujourd'hui dans beaucoup de sphère sociale et dans beaucoup d'endroits du monde, est-ce que ça va simplement donner un prétexte à redorer le blason d'un mode de production qui est quand même complètement inégalitaire, complètement méprisant profondément des questions environnementales telles qu'on a pu le voir globalement depuis 20 ans, ou est-ce que ça pourrait être l'amorce d'autre chose ? Moi, à ma place aujourd'hui, je ne suis pas une leader politique. J'attire simplement votre attention sur tout ça. Donc, je ne sais pas si j'ai été trop longue.
Merci. Voilà. Tout simplement pour... merci, Ami. Je pense que c'est exactement ce qu'on voulait.
Ah bon, d'accord.
Je vais te dire pourquoi. Parce que nous sommes confrontés, ça fait déjà, et uniquement pour te donner ça fait, je crois, ça fait trois ans que nous avons, que nous traitons la question du bilan, entre guillemets, hein, du bilan des politiques issues de la conférence de Rio. Et on n'est jamais, on n'arrive jamais à trouver, disons, un terrain d'entente collectif. Tout le monde n'est pas de même avis. Hein. Et d'abord parce que je crois que ça dégage une sorte de consensus, c'est que le bilan est mitigé, et plus qu'il est mitigé. Certains disent que le bilan est mauvais. Hein. Si on regarde, en fait, tout ce qui a été proposé en 92, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Donc, par conséquent, le bilan est mitigé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer? On a besoin d'une discussion autour justement de cette question qui vient de soulever Ami. C'est-à-dire qu'il faut essayer de voir pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que toi, tu mets l'accent sur le modèle néolibéral? Est-ce que parce qu'il n'y avait pas eu une volonté politique des grandes puissances? Est-ce que parce qu'il y a eu, à un moment donné, historiquement parlant, les pays dits, entre guillemets, émergents, ont profité justement de leur processus de développement et ont commencé effectivement à prendre du poids, la Chine, l'Inde, le Brésil, peut-être l'Afrique du Sud? Il y a une série des éléments qui nous obligent effectivement à essayer de trouver une réponse à cette question. Pourquoi il est mitigé le bilan? Pourquoi le bilan est mitigé? Pourquoi on n'a pas comblé en quelque sorte tous les expectatives qu'on avait soulevées à l'époque 92? Et surtout si on se tient aux trois piliers. Le pilier social, le pilier environnemental et le pilier développement. Et pareil, on arrive à des controverses. Parce que certains diront, mais attendez, le bilan social, si on prend le Brésil, si on le compare avec d'autres pays, on peut dire que le bilan social peut être positif. D'accord ? Et Lima nous parlera tout à l'heure. Ailleurs, peut-être, le bilan environnemental est mauvais. Mais peut-être le bilan de développement est relativement bon. Donc, il y a une complexité dans cette question de faire le bilan. C'est la raison pour laquelle, et on revient notamment à notre business, pour dire des choses comme ça, nous, on avait dit, il faut absolument avoir monté ou élaboré un dispositif, je ne sais pas sous quelle forme, là, ça fait partie des discussions qu'on a eues depuis ces 5 dernières années, il faut absolument monter un dispositif pour essayer de faire un effort pour tirer un bilan. Chose très curieuse, amis, on va, l'année prochaine, on va à Rio, il n'y a pas de bilan.
Non, vraiment.
Il n'y a pas de bilan. C'est-à-dire qu'on va aller à la conférence, elle va s'ouvrir le 4 juin. Et où est le bilan? Personne n'a un bilan. Ils nous ont dit, il faut travailler sur la question de la gouvernance, sur la question des économies vertes, je reviendrai tout à l'heure, sur les questions des énergies. Il y avait la question de la pauvreté, elle est noyée dans, je ne sais pas sous quel thème. Mais il n'y a pas du tout dans les thèmes, il n'y a pas du tout un point de départ, bilan de ces 20 dernières années. C'est curieux. Hein? Donc on se pose la question, pourquoi il n'y a pas de bilan? Est-ce parce que tout le monde est d'accord que le bilan est mauvais? Peut-être. Donc autant ne pas faire le bilan, donc s'il est mauvais. Donc ça, c'est un premier point que j'aimerais attirer votre attention pour essayer tout à l'heure de peut-être aller plus loin. La deuxième chose que tu as soulevée, d'abord, je veux tout simplement apporter une couche sur la controverse, uniquement pour discuter. Oui. Je crois qu'il y a un malentendu, depuis très longtemps, ça fait déjà presque 40 ans qu'il y a ce malentendu, avec le fameux rapport du Club de Rome. Le document, et tu le connais parfaitement bien,
ah oui.
Jamais le Club de Rome avait préconisé la fin de la croissance. C'est pas marqué la fin de la croissance. C'est attention aux limites des ressources. C'est différent.
Là, aux limites de la croissance. Pas la fin de la croissance. Ça, c'est le titre français.
C'est le titre français, mais...
Mais le titre en anglais,
d'accord.
Mais
mis l'accent sur les ressources.
D'accord. Oui, bien sûr, mais il n'y avait pas. D'accord.
Il y avait. Mais oui, mais il n'y avait pas une intention de dire arrêtons de décroître parce que il faut décroître.
Je pense que un des points, c'est pas d'avoir une polémique seulement sur le Club de Rome.
Oui, oui, non.
Et éventuellement sur la notion de croissance aujourd'hui.
Bien sûr, parce que ça devient... Tout à fait. Ce n'est pas une polémique sur le Club de Rome. C'est parce que comme la question de la croissance, des croissances revient très souvent, de manière récurrente, et ça devient aussi très polémique, il faut savoir de quoi parle-t-on. Oui, oui. Hein, tout simplement. Hein.
Non, mais d'ailleurs, moi, j'ai simplement dit que c'était un mood... entre guillemets, des années 70, du début, fin des années 60, début des années 70, qui a quelque part disparu au cours des années 70, qui maintenant ressort 20 ans après, mais qui a connu une éclipse réelle. Ouais.
Alors, le deuxième point pour essayer après d'ouvrir la discussion, et puis on va écouter après
les autres.
Moi, je pense qu'il y a également un débat qui va... Je crois qu'il va faire rage, et ça sent, c'est qu'on nous a mis sur la table la question des économies vertes. Or, les économies vertes, pour qui? Qui va faire les économies vertes? Tout le monde. Tout le monde doit faire les économies vertes. Je crois que là, sincèrement, si vous allez interroger un Brésilien, on va aller interroger un Mexicain, décideur politique. Ah, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont faire de l'économie verte. Peut-être ils veulent comprendre pourquoi à cette option de l'économie verte, mais je ne crois pas que c'est à l'ordre du jour. Ça, c'est d'après les choses que j'ai observées et discutées avec les gens que j'ai croisés ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc, un vrai débat là-dessus également. Un vrai débat. Hein, parce que en fait, il va falloir bien situer le contexte de cette proposition. Et savoir quel est l'échange qu'il y aura. Parce qu'il y aura, à mon avis, il y aura une négociation pour adopter en quelque sorte une stratégie dans cette direction-là. Et je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Et l'Équateur avait proposé de pouvoir arrêter l'exploitation de pétrole en échange des compensations. Et puis s'orienter peut-être sur une autre perspective d'économie verte. Mais bon, l'idée, c'était par là. Et les pays riches se sont dit d'accord. Enfin, ils ont dit oui, c'est une bonne idée. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a presque rien. Il n'y a rien de fonds proposés par les pays développés. Conclusion, il semblerait que l'Équateur fait le marché arrière, ils vont revenir à l'histoire de l'exploitation du pétrole. Donc, à mon avis, ça va être des thèmes qui vont émerger à la conférence et qui vont émerger sans justement arriver avec le bilan de ces 20 ans. Donc, je crois que cette idée également de la ruine économique, c'est hyper important. Ici, en France, on l'évoque de manière récurrente et c'est devenu, entre guillemets, un choix politique, hein, et ça va devenir un thème de campagne pour les prochains mois. Dernier aspect, et après je vais appeler notre ami Volk. Moi, je trouve que cette question de lien que tu as soulevé tout à l'heure et le lien entre science et politique, c'est vraiment hyper important. Nous, on s'est arrêté, enfin, nous en France, parce qu'il y a eu cette polémique, nous, on est resté plutôt. Il y a eu quelque chose aussi aux États-Unis. On était très intéressés par la controverse. Hein, controverse entre les climatologues, je mets tout le monde là-dedans, et les climasceptiques, sous la question justement du changement. Mais je pense que ça, c'est un véritable sujet de discussion sur ces liens entre science et politique. Véritablement, pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental. Et est-ce que ça fait partie également de l'agenda à Rio? Je ne sais rien. Peut-être toi, tu sais plus que moi, je ne connais pas ça. Est-ce qu'il y a une volonté? Parce que quand même, il y a eu une polémique mondiale, hein, autour du GIEC, quand même. Hein. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Il y a des pays en voie de développement qui veulent venir avec des propositions un peu différentes. Et je reviens aussi à l'Équateur. L'Équateur, il veut absolument placer dans la discussion cette notion du bien vivre, hein, dont les Nations Unies aujourd'hui sont très attentives. Et toute toute une réflexion sur la manière comment justement on peut faire de valoriser le culturel, hein, le traditionnel, par rapport justement à des possibilités de nouvelles formes de développement. Et je crois que ça va être une discussion intéressante. Nous avons invité à Brasilia tout à l'heure, Lima parlera peut-être, nous avons invité à Brasilia un des penseurs équatoriens qui travaille sur ces questions-là. Il va falloir, à mon avis, également tenir compte de cette nouvelle possibilité, de ces nouvelles options. Donc, vous voyez, le débat ne fait que commencer. Et il y a plusieurs choses sur le tapis et qui, à mon avis, va donner lieu à peut-être à des discussions assez intéressantes. Okay. Alors, donc... Tu veux un petit commentaire?
Non, pas du tout. On va demander à Tiller
de nous rejoindre. Tyler.
Tyler.
Excuse me. Tyler nous a fait ce matin un remarquable exposé sur la diffusion du CO2. Traduction est prête. Bon. Vous voulez un micro chacun, non ?
Testing, testing.
Tu veux un micro pour toi ? Oui. Elimar, il parle, Elimar ?
Je ne parle pas.
Tu ne parles pas ?
Okay, my name is Tyler Volk, and I'm a professor of biology and environmental studies at.
Je m'appelle Tyler Volk, et je suis professeur de biologie et d'études écologie de d'écologie.
Would you like the microphone? Because you need to hear me.
Okay.
At New York University in New York.
À l'université de New York.
And I've been doing research on the global carbon cycle. World energy systems and climate for several decades.
Ça fait plusieurs décennies que je fais de la recherche sur le cycle de carbone, sur les systèmes énergétiques mondiaux, etc.
And I also have a very passionate interest in education, public education about these issues.
Je suis également passionné par l'éducation, comment faire connaître ces sujets.
And what I'm going to do this afternoon in a short amount of time is to show you some numbers about, as you see on the title up there, economic wealth, energy consumption, and carbon dioxide emissions.
Donc je voudrais vous présenter brièvement quelques chiffres sur ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la richesse économique, la consommation d'énergie et les émissions de CO2.
And I call it the 2050 challenge because... Well, when I teach at NYU, you know, the students are going to be, you know, just in their healthy part of their adult lives by 2050.
J'appelle ça le défi 2050 parce que mes étudiants à l'université de New York vont être vraiment dans la force de l'âge en 2050.
And also, as I hope to show you, when if we project what's called gross world product to 2050. We get an interesting number that an interesting number to contemplate.
Et aussi parce que si on essaie de calculer ce que j'appelle le produit mondial brut de 2050, on arrive à des chiffres très intéressants.
Okay, so here we go. This is the a graph of gross world product. In terms of $1990, it doesn't really matter what the units are as long as inflation is taken out.
Donc voici le produit mondial brut calculé en dollars de 1990. Bon, peu importe, il faut tout simplement tenir compte de l'inflation.
Now, how do we get gross world product for the 1,000 years ago?
Alors, comment calculer le produit mondial brut, je vais l'appeler PMB, pour il y a 1000 ans, par exemple. Comment calculer ça?
And this was done by a German economist called Angus Madison.
Alors, il y a Angus Madison, un économiste allemand, qui a fait ce calcul.
Mm-hmm. And he was working on this for... he just died in 2010, but he had been working on this for many years.
Il est mort en 2010, mais ça faisait de nombreuses années qu'il travaillait là-dessus.
And what you see is that the world was very poor for a long time.
Go ahead. Sorry. On voit que le monde était très pauvre pendant très longtemps.
Despite the Middle Ages, the Dark Ages, rise of Chinese civilization, the Renaissance.
Malgré le Moyen Âge, la Renaissance, l'émergence de la civilisation chinoise.
all kinds of interesting things in history happened, but the actual wealth of the world was very low.
Il y a eu plein de choses de développement intéressant, mais la richesse était vraiment très 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 basse.
You know, until about 1800, 1850.
Jusqu'en 1800, 1850.
And then the climb starts.
Et c'est là que ça commence à monter.
You know, industrial revolution and the use of fossil fuel energy systems.
Avec la révolution industrielle et l'utilisation des énergies fossiles.
Energy systems other than human muscle power and animal muscle power.
C'est-à-dire des énergies autres que la puissance musculaire de l'homme et des animaux.
And so there were real limits to the wealth of the world.
Donc il y avait jusque-là vraiment des limites très importantes à la richesse.
Now if you notice on the graph between 1950 to 1960, 1960 to 1970, take those decades.
Alors si on regarde les décennies 1950 à 1960, 60 à 70,
Each decade appears to be growing more than the previous decade.
On semble avoir plus de croissance chaque décennie.
And so we want to analyze this in more detail because from this graph, you know, it's just a straight line going up. You can't really project in any meaningful way. The scale is wrong.
Donc je voudrais regarder ça d'un petit peu plus près.
So the standard way of doing this is to put it into a natural log, what is called a natural log graph.
Alors pour ce faire, typiquement, on va utiliser une graphique logarithmique naturelle.
Which I do here. And as you see from about 1970 to, this is about, I think this is 2009 data here.
Donc on voit ici de 70 à 2009.
It's very much of a straight line on this log graph.
C'est une ligne très assez droite, assez plane.
You can see the actual numbers in the trillions of. This is 2005 U.S. dollars on the right.
Donc c'est en dollars 2005 à droite des billions de dollars.
Mm-hmm. Now a straight line on a natural log graph of means that there is exponential growth happening. In which the slope of the line is the growth rate.
Donc, dans ce genre de graphique, ça veut dire en fait que c'est une croissance exponentielle.
So when I saw this, it blew my mind a little bit.
Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment étonné.
It's as if the world were some kind of, well, exponentially growing, almost like a biological population, perhaps. But this is the economic machinery of the world. This is not world population. This is the economic machinery.
Alors ça, c'est l'appareil économique, et pourtant, ça ressemble à un organisme biologique, l'augmentation démographique d'un organisme biologique.
And I think this is interesting because certain countries rising and falling, China and India have been growing maybe at 9 or 10% per year recently. Russia had a time of falling gross domestic product. This is the sum of the world's nations, and it's as if the sum were some kind of fixed number.
Alors c'est étonnant parce que malgré des hauts et des bas pour certains pays, la Chine et l'Inde qui montent à 9-10% de croissance, la Russie qui a baissé à un certain moment, et pourtant on dirait qu'il y a un constant, que l'ensemble, il y a un constant de l'ensemble.
The slope, by the way, of this line is 3.1%, approximately 3%.
Alors, cette pente représente une croissance d'environ 3,1%.
So, since about 1970, the world economic system has been growing in real terms at about 3% per year.
Donc, depuis 1970, 3% environ chaque année. De croissance.
Well, I'm not proposing this as a new law of economics. Okay.
Je ne propose pas une nouvelle loi de l'économie.
But I want to ask what happens if it does continue growing at this rate.
Mais qu'est-ce qui se passe si ça continue comme ça?
And at 2050, it reaches a number there that you see, approximately 250 trillion US dollars.
Alors on arrive, comme vous voyez à l'écran, à un chiffre de 250 billions de dollars.
But I want to put that into qualitative terms.
Mais je veux expliquer ce que ça veut dire en termes qualitatifs.
Because when I take into account the projected growth in world population to about 9 billion people by 2050.
Parce que si on prend en compte le fait que la population mondiale doit atteindre les 9 milliards en 2050.
This growth would produce a world in 2050 in which the average world person had approximately the economic lifestyle of the average European today or the average Japanese today.
Si on prenait les chiffres moyens, ça voudrait dire que le citoyen mondial moyen aurait un niveau de vie ou de développement, en tout cas, ce serait l'équivalent du citoyen européen moyen aujourd'hui.
Mm-hmm. So that means it takes about 40 years of this growth rate just to have the average person of the world about equal to today's average condition of Europe.
Donc ça veut dire qu'il faudrait 40 ans de cette croissance pour atteindre le niveau de l'européen moyen aujourd'hui.
And so this is, I think, worth contemplating.
Alors ça me semble intéressant.
Yeah, because on one hand, by the way, this is a world economic engine that's approximately four times today.
Alors ça veut dire quatre fois plus que le niveau d'aujourd'hui.
So that seems, you know, staggering.
Alors ça c'est quand même assez ahurissant.
But if we do not do this, then much of the world is in poverty.
Mais si on ne le fait pas, alors une bonne partie du monde restera dans la pauvreté.
And what is this going to mean for fisheries, for land, for water?
Et alors, quelles seraient les conséquences aussi pour la pêche, pour l'agriculture, l'utilisation des sols, des forêts?
And I'm not
sorry.
And I'm not really seeing any concrete visions out there for how this would be possible.
Et pour le moment, je ne vois pas trop de, je n'ai pas rencontré trop d'idées ou de visions de comment ça pourrait se passer.
Okay, so let's examine some of the parts of this in more detail.
Alors, regardons cela en plus de détails.
There is some good news here in trends of gross world product, energy consumption, and CO2 emissions relative to each other.
Il y a néanmoins quelques bonnes nouvelles en ce qui concerne les relations entre le produit mondial brut, consommation d'énergie et les émissions de CO2.
What I did here, I took the world's gross world product, the world's energy consumption and the world's CO2 emissions from fossil fuel combustion for 1970, and it doesn't matter what the units were, I set them equal to 1. As a baseline in 1970.
Donc, j'ai commencé avec l'année 1970 et j'ai tout mis, j'ai pris comme départ l'unité 1, peu importe l'unité, c'est la relation entre les trois qui compte.
And then I took those same parameters for 1985 and 2000, 15-year intervals, and they all should be compared to their equivalent parameter in 1970.
Donc, à 15 ans d'intervalle, j'ai fait des comparaisons, donc 1985 et 2000. Alors, on voit que les trois augmentent, mais pas à la même vitesse.
So this is the gross world product that I showed you earlier, and you can see that it took not a proportional amount of energy to make that gross world product, but less energy. Less of an increase to make that gross world product.
Alors, vous voyez qu'il a fallu en l'an 2000 moins d'énergie pour produire une augmentation du produit mondial brut.
They sometimes, well, so this is
known, but I want to show it to you because it's good news.
Alors ça, on le sait déjà, hein, les experts le savent déjà, mais je veux vous l'annoncer parce que c'est une bonne nouvelle.
It looks like the world is getting more efficient in terms of its how much energy it takes to create a given amount of wealth.
Le monde semble devenir plus efficace dans l'utilisation de l'énergie pour produire la richesse.
Mm-hmm. And a slightly more efficient, but not as great a change in having a certain amount of energy come from less CO2 emissions.
Et il y a aussi un petit peu moins de production de CO2, mais l'écart est moindre.
And this is primarily the rise of natural gas.
Et ceci, la réduction du CO2, enfin relativement, hein, relativement parlant, c'est surtout à cause du gaz naturel, de l'utilisation du gaz naturel croissant.
So if you put these trends together and you put in our model of the global carbon cycle, one can ask what happens to CO2 emissions if the world develops according to what I showed before. And taking into account these efficiency trends.
Alors, si on utilise nos modèles sur le cycle du carbone, on peut émettre un certain nombre d'hypothèses pour la suite.
And that ends up with this graph of atmospheric CO2 emissions. And what happens is that by 2050, the carbon dioxide rises as much from in 45 years as it did in the previous 150 years.
Donc, ce que l'on voit ici sur cette graphique, c'est l'augmentation du CO2, une augmentation de 100 parts par million, c'est-à-dire autant en 45 ans que en 150 ans.
Yeah. So this is taking into account those efficiency trends, and we still see
Donc ça, c'est en prenant compte d'une augmentation de l'efficacité qu'on a vu tout à l'heure, mais on voit qu'il y a toujours un problème de production de CO2.
So I want to go into the components of the gross world product energy consumption and CO2 emissions.
Donc je veux voir ces éléments de plus près. Je voudrais étudier ces éléments de plus près.
So what I do here and for the next graph, one thing I like to do is to take a parameter and set it equal to one, and this is the world's average person approximately today. It was just a couple years ago, but approximately today, this is the world average person's values of gross domestic product, energy consumption, and CO2 emissions.
Donc j'aime bien prendre comme paramètre la valeur 1. Et donc voici une comparaison, si on prenait une comparaison d'aujourd'hui entre le produit, le PIB, la consommation d'énergie et CO2. D'une personne moyenne, sorry, excusez-moi, du citoyen mondial moyen.
I knew that the average person's wealth in the United States was going to be larger than this, and so was the energy consumption, and so were the CO2 emissions going to be larger. I knew that.
Alors, je savais déjà que ça allait être, les chiffres allaient être nettement au-dessus pour les États-Unis.
But what I was surprised at is just how consistent these numbers were. They're all between 4 and 5 times the average world person.
Mais ce qui m'a surpris, c'est que ça a été dans les trois cas à peu près pareil, entre 4 et 5 fois le citoyen mondial moyen.
Uh-huh. It's as if there were a system here that was either dialed higher or lower.
Comme s'il y avait un système pour ajuster automatiquement.
Yeah. And this shows wealth is very much dependent upon energy because it takes energy to manufacture, for me to travel here, for many of you to travel here, to just to live. You have to have energy to transform materials.
Donc on voit que la richesse dépend de l'énergie. Il y a besoin d'énergie pour fabriquer les biens de consommation, pour voyager, pour ceux qui sont venus ici aujourd'hui peut-être, et même pour vivre.
And today's world, it's mostly fossil fuels.
Et comme on dépend beaucoup des combustibles fossiles, on voit la production de CO2.
So what does this look like in other regions?
is it really a system that it can either be higher or lower consistently?
Alors, la question, c'est, je voudrais voir ce que ça donne dans d'autres régions du monde, pour voir s'il y a des différences.
And here I show, well, let's look at Europe and Japan up here. Now, I put Europe and Japan together because it turned out that the numbers were less than, were within 10% of each other.
Alors, j'ai fait une moyenne de l'Europe et du Japon parce que les chiffres étaient très proches, à moins de 10% d'écart.
Mm-hmm. And we see that with one as the baseline, yes, Europe and Japan, relatively well off, relatively wealthy, and all of these are higher than one.
Alors, on a pris comme base donc le chiffre 1 et on voit que l'Europe, le Japon, les gens sont relativement riches.
Much more efficient, though, at making wealth out of a certain amount of energy.
Mais par contre, beaucoup plus efficace dans l'utilisation de l'énergie pour produire de la richesse.
Okay. And that's a number of, that, there's a number of factors in there.
Il y a plusieurs facteurs.
Maybe some of you have analyzed.
Que vous avez peut-être déjà analysé.
But, take a look at China.
Alors, si on regarde la Chine.
I guess what is striking to me about China is that it's very close to being the average condition of the world.
Ce qui me frappe, c'est que c'est très proche de la condition, de la situation moyenne au niveau mondial.
And Mexico is in there, for example.
La Mexique a des valeurs à peu près similaires.
Mm-hmm. So a lot of discussion over the rapid growth rate, the rise of China, but still it's relatively poor.
On parle beaucoup de la croissance de la Chine, mais ça reste néanmoins relativement pauvre. Is this at the moment?
Yes, I think this was 2007 data. So
2007.
So it's still, it's changing, but not that much relative. It's actually difficult to get current data for all three things.
C'est difficile d'obtenir des données actuelles de 2011 pour ces trois éléments. Mais ça n'a pas beaucoup changé, en tout cas.
But the story is very close to this.
Voilà, ça serait encore proche.
And if we look at India, more than 1 billion people, you see, it's almost to China, the way that China is to the US. It's again, the system is here, but now it's dialed down very, very low.
Alors on voit l'Inde, l'Inde avec 1 milliard d'habitants par rapport à la Chine, c'est un petit peu comme la relation entre la Chine et les États-Unis en termes de chiffres.
Africa, 800 million people.
Et l'Afrique, 800 millions d'habitants.
And, you see, a similar story, a very much reduced system in all parameters.
Et donc on voit un système qui est plus bas, qui est réduit pour les trois paramètres.
So you know, these places would like to be, they would be happy could they, if they were being like China.
Donc évidemment, ces régions seraient heureux, contents s'ils pouvaient être dans la situation de la Chine.
Yeah. So how is this all going to happen?
Alors qu'est-ce qui va se passer?
I want to see some visions out there of how this could happen.
Alors j'aimerais bien qu'on m'explique un peu qu'est-ce qui va se passer.
And after doing these graphs, I also started thinking about what I mentioned earlier, water, agriculture, because these are total systems. This is not just, it's not just energy and money.
Alors j'ai commencé ensuite à réfléchir aussi à l'eau, à l'agriculture, parce que ce sont des systèmes globaux, hein. C'est pas seulement l'énergie et la richesse.
So I'll show you some numbers at the end of just some preliminary work, because I'd like to see what are the challenges? Are there any particularly difficult items that are inputs that we need to be concerned about? Are there some that are going to be easy to get and some that are going to be more difficult to get? Because then we have to put the research into the ones that are more difficult.
Donc, vers la fin de cette présentation, je vais vous présenter quelques chiffres sur l'eau, l'agriculture, etc. Parce que je commence à réfléchir à des défis, les défis les plus difficiles. Quels sont les éléments qui vont vraiment poser problème?
So I got, in preparation for this meeting, I got interested in, well, what's the status of, where does France fit
in this.
Alors, pour cette, cette conférence, j'ai regardé un petit peu la position de la France. J'ai fait seulement les chiffres, pas le, le graphique.
GDP, energy and CO2, and here's the United States between 4 and 5 times the world average person.
Donc on voit ici à nouveau donc le citoyen mondial moyen au niveau 1, paramètre 1 que j'avais défini, les États-Unis autour de 4 fois plus que le citoyen moyen, et puis la France.
Here's China at close to 1, close to the average condition.
Et la Chine qui est près de la moyenne.
I mean, there are also interesting things in here. Why China's CO2 emissions are higher than its energy average, and that has to do with its heavy dependence upon coal.
Alors, on voit des choses intéressantes là. Pourquoi en Chine, pourquoi plus de CO2 par rapport à l'énergie? Alors, c'est lié évidemment à l'utilisation du charbon pour produire de l'énergie.
I did not do Brazil here, but Brazil's actually interesting to look at in this way because of the hydroelectric and the ethanol.
Alors, je n'ai pas regardé le Brésil, mais le Brésil est intéressant aussi à cause de l'utilisation de l'éthanol et aussi de l'hydroélectrique. Merci.
And here we see with France, it's about 3 times the world average GDP, more efficient at generating that GDP with less energy, and then a lot better with the CO2 emissions. You all are probably celebrating the fact in terms of CO2. I don't know if you're celebrating it, but it's true.
Donc on voit pour la France une utilisation de l'énergie plus efficace que la moyenne, enfin assez efficace en tout cas.
I assume that's mostly, et ben voilà. Mostly because of the nuclear power.
Yeah. Yeah. Voilà. Okay. Voilà, et donc un CO2 qui est plus bas.
So to put these in terms of the GDP produced per unit energy consumed.
Alors, si on regarde donc la production du PIB par unité d'énergie consommée.
High would be good.
Donc, plus c'est haut, plus le chiffre est élevé, mieux c'est, plus c'est efficace.
Yeah. And, okay, so here's France number one on this parameter.
Alors, la France championne.
So I'm going to show you another one. This is the energy produced per unit CO2 released, and again high is good.
Et ici donc production d'énergie par unité de CO2 émis, là aussi plus c'est élevé, mieux c'est.
Maybe the nuclear waste might be bad.
Alors les déchets nucléaires, c'est peut-être un problème. Par contre,
but France, this is, I thought this was really interesting. France is close to being twice as efficient at getting energy and not releasing CO2.
Alors ça m'a semblé quand même intéressant de voir que la France est deux fois plus efficace presque dans la production d'énergie par rapport à la production de CO2.
Yeah, in fact. In fact, if you just look at this number, France was only 40% more CO2 per capita, per person, than the world average person, and yet, you know, has a very good standard of living that a lot of the world would like to be in.
Donc si on regarde ce chiffre, on voit que la France est seulement 40% au-dessus de la production moyenne de CO2 pour un PIB qui est assez élevé.
Yes, so I'm tentatively calling this lifestyle input analysis, in which one analyzes what does it take to produce a certain lifestyle.
Donc ce que j'appelle ceci, c'est une tentative, j'appelle ça lifestyle input analysis, donc une analyse du style de vie, des données sur le style de vie.
So what I did here, now, okay, I'm from the U.S., so I'm just
I was putting things in U.S. terms here. I haven't done the total lifestyle analysis for France yet.
Donc, j'ai fait ça pour les États-Unis. J'ai pas encore essayé de faire cela pour la France.
But I'm asking, what would it take to have 9 billion people in 2050 live like the average U.S. person today?
Donc, j'essaie de voir si, en l'an 2050, si on voulait que 9 milliards d'êtres humains puissent vivre comme l'Américain moyen aujourd'hui. J'essaie de voir ce que ça pouvait donner comme chiffre.
Now without energy efficiency, right? This is, I'm not projecting, can we grow food more efficiently? I'm saying, with today's technology, what would it take to have everybody in 2050 live this way?
Donc je n'ai pas pris en compte les avances technologiques qui permettraient peut-être une meilleure efficacité. J'ai pris la situation d'aujourd'hui.
And this does not take into account, this is not counting exports, this is counting consumption within the nation.
Et je n'ai pas non plus pris en compte les exportations, j'ai pris en compte seulement la consommation à l'intérieur des États-Unis.
Okay, what you see, we take six times the energy.
Donc, ce que vous voyez, il faudrait six fois plus d'énergie.
3.7 times the water.
3,7 fois plus d'eau, consommation d'eau.
4.7 times wood consumption.
4,7 pour le bois.
4.6 times the cotton consumption.
4,6 pour le coton.
The world would be eating seven times the chickens.
Il faudrait manger sept fois plus de poulet qu'aujourd'hui. Ça m'a semblé intéressant pour les poulets.
Four times the meat consumption.
Quatre fois plus de viande.
Only 1.8 times the fish consumption.
Seulement 1,8 pour le poisson.
If you take, I did look at Japan's fish consumption, and for everybody to eat fish like the average Japanese, that would be about 4 or 5 times the fish consumption.
Alors, j'ai regardé pour le Japon, hein. Si tout le monde devait consommer autant de poissons que les Japonais, là, il faudrait 4 à 5 fois plus de poissons.
I'm not criticizing, you know, Japanese fish consumption or anything. I'm just interested in the numbers.
Ce n'est pas pour critiquer la consommation japonaise de poissons. Je m'intéresse aux chiffres.
Copper 2.5 times, aluminum 5.
Le cuivre 2,5, l'aluminium 5.
And the protected land, this is different. This is saying to protect the amount of land per person that the United States does, the world has to double its protected land. The United States is relatively good at protecting land.
So you'd need to protect twice as much.
Twice as much.
Alors, mais il faudrait aussi avoir des zones protégées deux fois plus importantes.
On a
beaucoup de parcs naturels nationaux aux États-Unis.
How this would be possible. Many of my students see this at NYU, at New York University, and they say, well, we've got to cut down on meat consumption.
Donc, moi, j'aime bien essayer de voir comment ça serait possible en 2050. Alors, mes étudiants, quand ils voient ça, ils disent tout de suite, ah bah, il faudra réduire la consommation de viande.
I'd like the world standard of living to come up. Okay?
Alors, comment dire? Je voudrais que le niveau de vie mondial augmente. Donc, je voudrais travailler avec d'autres pour savoir comment on peut faire pour augmenter le niveau de vie moyen.
Does green development mean being able to do this, but in a way that we can live with, that will give us the future?
Alors, est-ce que la croissance verte, par exemple, est-ce que ça peut permettre un développement dans cette direction?
So these are some numbers I offer to you that you can maybe carry away with yourself.
Donc, voici quelques chiffres que vous pouvez peut-être Vous pouvez peut-être réfléchir sur ces chiffres. Ça peut peut-être... ça pose quelques questions.
Okay, thank you for your time.
Merci.
Merci à M. Volk. Ce que je vous propose, c'est une petite interruption de 10 minutes, un quart d'heure. Non, vous ne voulez pas ? Mais on a encore quelqu'un à écouter. Donc j'ai peur que votre attention faiblisse, mais ce ne sera pas le cas. Vous êtes sûr ? Bon, Elimar, il va falloir... hein ? Bon, vous ne voulez pas de café, rien, tout va bien. OK.
Il faut rester quand même dans la salle. Hein.
Ceux qui veulent prendre le café. Bon, bonjour à tous et toutes. Merci pour les organisateurs de cette réunion pour m'invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Poitiers et bavarder un petit peu avec vous, enfin, vous écouter. Je suis timide. Enfin, mais petit à petit, je commence à parler plus haut. Hein. C'est normal. Bon, je suis le responsable de l'organisation scientifique dans un séminaire qui rassemble l'Institut international de recherche politique et civilisation, la Fondation Pierre-Emmanuel de France, le Centre de développement durable de l'Université de Brasilia et le ministère de l'Environnement du Brésil. Donc, c'est quatre organisations avec l'appui de quelques autres. Et. Nous suivons en réalité déjà les décisions qui ont été prises en réalité à Poitiers l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, les gens ont discuté ici en disant, bon voilà, il faut commencer à faire des efforts pour Rio plus vent, car c'est une occasion spéciale pour pouvoir pousser certaines questions de l'essence du développement durable ou même au-delà du développement durable, selon quelques ans. Donc, on est dans cette préparation. On a eu déjà un séminaire au mois de juillet à Dijon. On aura un autre séminaire donc au Brésil, 24 jusqu'au 26 octobre. Ensuite, on aura encore un séminaire ici à Poitiers et probablement encore un ou deux autres avant celui de mai à Rio, juste avant la réunion qui se fera au début du mois de juin. Les pays, ces moments, ils bougent pas mal, c'est-à-dire à chaque semaine, moi je vois dans les journaux, dans la télévision, qu'il y a des groupes qui s'y réunissent pour discuter ce type de questions. Par exemple, le Conseil de développement économique et social qui appartient à la présidence de la République a déjà fait au moins cinq séminaires avec des entrepreneurs, des mouvements sociaux, des syndicats, etc., des académiciens, etc. Les ONG ont déjà fait quatre réunions nationales et enfin, plusieurs régionales. Et bon, il y a encore d'autres initiatives au niveau de l'université. Et, enfin, presque toutes les universités brésiliennes font des séminaires pour discuter Rio plus vent. L'interprétation, c'est que l'occasion, c'est une occasion importante, pas simplement en elle-même, mais c'est une opportunité pour faire, enfin, du point de vue du brésilien, pour essayer de pousser davantage la compréhension et les mesures qu'on doit mettre en pratique pour avoir une société d'énergie plus propre avec des réductions de gaz de serre, pour pousser davantage le recyclage, réduire les déforestements, réduire l'élevage, changer le mode de vie des gens, changer la mobilité dans la ville. Pêcher davantage comme le meilleur transport, celui qui s'appelle le non-transport, c'est-à-dire aller à pied, c'est ça, c'est le meilleur. pour la santé, pour la poche et pour la planète. Donc, il y a toute une série de choses qui se passent à ce niveau dans les pays. Et évidemment, d'autres choses qu'on discute au niveau du Parlement, au niveau du parti politique. Parce qu'évidemment, rien n'est gagné. Les grands agriculteurs et les entreprises des minières, du pétrole et tout ça veulent davantage pouvoir pousser ces affaires, rentrer dans l'Amazonie et occuper d'autres espaces. En ce moment, on a un grand, immense débat autour du code forestal, qui est en train de mettre en cause plusieurs choses qu'on était déjà conquis. La première version est allée à la table de Madame Dilma Rousseff. Elle a renvoyé en disant qu'il était un crime ce qui était écrit là-bas. Il a demandé aux députés et les sénateurs de rediscuter la question. Bon, ils sont en train de rediscuter. Mais on ne sait pas si ça va changer. La ancienne première ministre Marina Silva fait un mouvement extraordinaire pour bloquer ce type de changements qui sont en cours, surtout parce qu'ils vont permettre aux propriétaires des terres rétrécir la partie qu'ils devaient conserver en verte. Et basiquement, c'est là la grande discussion. Hein, c'est-à-dire que si tu es en terre en Amazonie, tu dois rester debout les arbres pour 80% du terrain. Si tu es au biome du Cerrado, c'est 50%, etc., etc. Et bon, évidemment, ils veulent que l'Amazonie soit 30% ou 50% bon, et non 80%. Donc, il y a toute une série de questions, de beaucoup de discussions à ce niveau-là. Et donc, au niveau du pays, c'est intéressant, les débats, parce que ça permet d'avancer certaines choses. On fait beaucoup de discussions, par exemple, au niveau de l'énergie nucléaire, hydraulique, thermoélectrique, investissement dans l'énergie éolique, le solaire, etc. Mais, du point de vue global, qu'est-ce que ça va représenter, eu plus vent? J'avais, il y a deux ans, beaucoup d'espoir qu'il y ait des changements. Aujourd'hui, j'en ai un peu moins. C'est-à-dire, en 72, quand les Suédois ont demandé aux Nations Unies pour faire la réunion de Stockholm, ils ont demandé en 68, la raison était une raison environnementale. C'est les pluies acides qui tombaient sur eux et ils ont cherché justement à promouvoir un contrat international pour dire oui, réduire toutes les attitudes, les procédures, les pratiques qui provoquaient ce type de choses. Quelle est la réaction du pays du tiers-monde, comme on l'appelait à l'époque, parce qu'il avait un second monde? Le pays du tiers-monde dit non. La question environnementale, ça ne m'intéresse pas. Je me rappelle que le ministre brésilien de l'économie a dit si vous ne voulez pas d'industrie polluante, vous pouvez envoyer au Brésil. On les reçoit très bien. Parce qu'ils disent le problème à nous, c'est un problème environnemental, ce n'est pas une question de conserver la nature, c'est un problème de combattre la pauvreté et développer les pays. Mais le Brésil n'était pas tout seul. Enfin, tous les pays du tiers-monde étaient à côté de lui en disant cela. Et le fait, c'est qu'en 72 et surtout en 92, l'inflexion est faite. C'est-à-dire la centralité environnementale est changée pour la centralité sociale. Et la question de la combattre la pauvreté et le développement du pays pauvre a été accordée. C'est-à-dire, les pays du Nord peuvent s'occuper du rendement, nous occupons du développement. Au moment qu'on soit riche, alors là, on peut aussi se préoccuper avec vous du rendement. Surtout que c'est vous les principaux responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vous qui avez abîmé vos forêts, pas nous. Pour l'instant, notre forêt est encore à la moitié debout. Et vous avez tout mis à la porte, donc vous êtes les responsables et occupez donc cette question. Évidemment, pour les pays développés, certains pays développés, surtout après les coûts d'État, enfin les coûts du pétrole, ça a été très intéressant ce type de changement. Pourquoi? Parce que les sources énergétiques fossiles sont localisées. Et quand cette localisation se trouve dehors de ton territoire, tu as deux possibilités. Ou bien tu prends possession de deux pays, Ils ont envahi l'Irak, par exemple, etc., pour pouvoir contrôler le pétrole. Ou bien tu changes la source d'énergie, soit dans la direction nucléaire, etc. Donc la question des sources d'énergie différentes était très importante pour les pays développés, mais pas nécessairement pour les pays sous-développés. Et surtout, il n'était pas une question importante pour le Brésil. Pas du tout, parce que nous, nous avons, à part le soleil, à part le vent, nous avons du pétrole, et nous avons des gaz, et nous avons d'énergie hydraulique. Enfin, hydraulique, je ne sais pas comment dire en français, hydraulique. Donc, il y en a une matrice, une des plus propres du monde, à cause de cela. Donc, c'est la question qui s'est passée. Or, au début du XXe siècle, il y a quelque chose qui a changé. D'abord, les programmes de combattre la pauvreté ont eu beaucoup de réussite, hein, surtout à la Chine et au Brésil. La Chine a mis dehors de la pauvreté millions et millions de personnes. Et le Brésil a fait le même, avec une taille évidemment bien plus petite que celle de la Chine, parce que nous sommes bien plus petits que la Chine. Mais on a eu des réussites à ce niveau-là. Et l'Amérique latine aussi, certains pays d'Afrique commencent à faire. Par exemple, cette année, quel est le pays qui va grandir moins dans l'Amérique latine ? Venezuela, zéro. Et le second qui va grandir moins, c'est le Brésil, 3,8. Tous les restes sont au-dessus de cette question. Donc, sont dans une dynamique économique et extraordinaire. Angola grandit à 14% pendant à chaque année, ça fait déjà 100 ans. Enfin, il y a toute une dynamique économique, c'est pas très important pour ces pays-là. Mais avec le changement de siècle, j'ai dit, à part cette réussite dans le combat de la pauvreté, il y a eu quelque chose d'important, que c'est les rapports de 2007 du changement climatique. Hein? Et alors, quelque chose de nouveau est venu. C'est-à-dire, ce n'est pas une question environnementale localisée, etc., qui peut, les pluies qui tombent sur les Suédois, des choses qui tombent sur les Français, mais c'est quelque chose qui concerne à nous tous. Parce que, justement, comme montrait Vogue ce matin, hein, le CO2, quand il est là, il est partout. Il ne se concentre pas au nord, au sud, au ouest, il est partout. Donc, on est tous touchés. Hein. Et là, la décision et la position du Brésil au début à Kyoto, c'est, à mon avis, une position mauvaise. C'est-à-dire, au début, parce qu'après, elle a changé. C'est-à-dire, on ne fixe pas des mètres pour, enfin, des objectifs pour réduire les gaz d'effet de serre. C'est à vous de les faire. Mais non, c'est à nous tous. Évidemment, avec des différences et responsabilités. Si vous produisez plus davantage, vous devez faire donc des objectifs plus forts. Si moi, je produis aussi, moi, je dois avoir des objectifs en bien, si bien, plus faibles. Mais c'est un problème d'ensemble. Cette position aussi, le Brésil, la Chine ont commencé à changer, et c'est très intéressant. Donc, à partir de tous ces types de choses, on avait l'impression que, bon, on aurait une nouvelle inflexion du social au ambiental. C'est-à-dire qu'on a eu d'ambiental, environnemental, pardon, ambiental, c'est portugais, environnemental, social, maintenant du social, environnemental. Parce que le mot environnemental, c'est difficile pour moi de le dire. C'est comme ça que je tombe. C'est le mot le plus difficile du français, c'est environnemental. Imaginez que ça se passait quelque chose comme ça. Et environnemental, attaché à une nouvelle conception d'économie. Pourquoi ? Parce qu'on commençait à s'apercevoir que le déclin d'innovation technologique qui avait clair signal des signaux 2005-2007 pouvait être repoussé justement avec cette possibilité de chercher de nouvelles technologies pour voir des changements au niveau de ce que vous appelez économie verte. Enfin, moi, je n'aime pas tellement, mais enfin, c'est le nom qu'on utilise. Donc, on a dit, bon, voilà une façon de chercher une nouvelle dynamique économique, mais une dynamique économique qui aurait des résultats différents, parce qu'il va tomber sur les qualités de vie de tout le monde, et pas simplement d'un ou de l'autre. Mais la crise économique de 2009, qu'on croyait qu'elle était déjà en passant, peut-être ça va changer les cas. Et Rio plus vent, ça va être peut-être différent à cause de ça. Pourquoi ? Parce que les pays du Nord ne discutent que emploi, que reprise d'économie. Voilà. Ils sont tous absolument attirés pour cette question. la question de l'économie verte, la question environnementale, la question, etc., commence à devenir secondaire. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les décideurs politiques, ils ne consultent jamais les biologues, ils consultent toujours l'économiste ou les scientifiques politiques. Hein? C'est-à-dire qu'ils doivent répondre aux demandes demain et pas des préoccupations pour dans 10 ans. Et c'est là le problème de la démocratie avec la question du développement durable. Ils ont des temporalités différentes, non pas la même. Voilà. Donc, c'est-à-dire du point de vue plus mondial, on a des... Je ne dis pas qu'on n'a pas d'espoir, qu'on a des mauvaises augures, non, mais on a des préoccupations, disons, voilà, la inflexibilité qu'on imaginait qu'elle allait s'y faire, il ne s'y fera pas. À mon avis, il risque de ne pas s'y faire. Et les espoirs étaient plus grands quand le document de l'ANU, la prospérité et son croissance, a été publié il y a 2 ans. Il dit, bon, voilà, c'est intéressant, parce que les gens du pays développé découvrent qu'ils peuvent améliorer sa qualité de vie sans nécessairement accroître sa production matérielle économique. Tu vois? C'était autre chose qui nous paraissait aussi très intéressant. De toute façon, c'est une itération qui ont fait, mais qu'on ne sait pas tellement, parce que personne ne peut le dire, comment ça va poursuivre cette crise économique qu'on vit aujourd'hui et qui touche le Nord et commence à toucher le Sud. Les Chinois ont déjà dit ça. Sur la thèse qu'on est décollé de l'économie du Nord, ce n'est pas vrai, parce que les effets commencent à toucher à nous aussi. Et au Brésil, ils sentent parfaitement ça, parce qu'au début, on croyait que les pays devaient grandir à 5,5. Aujourd'hui, il est 3,8. Et probablement, il va arriver à 3 à la fin. Parce que c'est comme l'économie, c'est comme ça. Il descend, il descend, il descend. Finalement, ça va arriver à peu près ça. Ça, c'est du point de vue plus général. Et toujours quand on a une situation comme celle-là, il faut faire davantage. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer à la maison, il faut faire davantage. C'est-à-dire, il faut essayer de chercher des choses et des accords intéressants. C'est pour ça qu'on a, organisé notre séminaire. Mon ordinateur est parti. Je dois faire par mémoire, je l'ai. On a essayé d'abord faire une espèce d'un bilan de qu'est-ce qui s'est passé en 72 jusqu'à aujourd'hui, en essayant de voir un peu l'avenir surtout. Et alors là, deux personnages très importants seront à la table, le ministre de l'environnement. Une ministre, ça s'appelle Isabelle Teixeira, et un ministre des sciences et technologies, Aloysio Mercadante, qui était un ancien député et personne très liée à Lula. Donc, ce sont les deux ministres qui vont poser la question avec M. le sénateur Gustavo Buarque et un représentant d'une ONG la plus importante du point de vue de conservation, etc., que c'est ISA. Donc les quatre vont jouer cette début. Là. Ensuite, on va avoir trois tables rondes, un pour chaque axe de la réunion, si bien que l'ONU a fait 2 axes. Au début, il était 3. Gouvernance mondiale, économie verte, combat pour voter. La combat pour voter a disparu, elle était attachée à l'économie verte. Maintenant, on a 2. Mais nous, on va voir dans notre séminaire, on va voir 3. Et on va voir avec des spécialistes du Londres, spécialistes de Chine, du Brésil. Et on va compter avec la présence du ministre de la planification d'Équateur à cause de sa expérience de bien vivre. Parce que pour nous, c'est très important. C'est bien que c'est un pays tout petit, avec beaucoup de problèmes politiques, beaucoup de contradictions à l'intérieur, mais qui essaye de faire quelque chose d'intéressant et nouvelle, ça vaut la peine d'y aller. Je suis allé, je crois qu'il faut... Je ne dis pas que c'est une merveille, que c'est tout correct, non, mais c'est intéressant de chercher quelque chose de nouveau. ils sont en train de le faire, ils ont le courage de le faire. Et on aura aussi donc la gouvernance et l'économie verte avec des spécialistes de France, de Chili, du Brésil, du Canada, etc. On aura une réflexion, excusez-moi, sur les BRIC. On ne peut pas les laisser le faire parce que ça, nous sommes là-dedans et ça, c'est un enjeu très important pour nous, hein, savoir comment on se concerte davantage. Parce que les BRIC, c'est un nom, parfois c'est des positions simples, mais parfois c'est pas du tout simple. Les BRIC, ce n'est pas une équipe de Barcelone, non, non, ce n'est pas Paris Saint-Germain, tu vois. Non, c'est plutôt des choses qui s'y collent et qui ne s'y collent pas, ça dépend du moment et de la question. Et finalement, une table ronde sur quelque chose qui nous intéresse davantage au Brésil, c'est la question des villes. Alors, 82% des Brésiliens vivent dans les villes. La plupart des gens du monde vivent dans les villes. Dans l'Amazonie, 72% vivent dans une ville. Parce qu'Amazonie, les gens pensent que tout le monde vit dans la forêt. Non, 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 personne. Ce sont presque 80% qui vivent dans les villes. Donc, pour nous, c'est aussi une chose importante. Et pour le monde, parce que ça, c'est une question... parce que la civilisation de l'automobile va nous rendre fous. Quoi. On ne peut pas continuer comme ça. On va tous s'arrêter. Et donc, il faut penser ça. Et finalement, on aura un document qu'on va, on va rendre à la Madame la Présidente. Mais avant, il y aura des cercles réflexifs que nous avons pris à Poitiers, ici, avec vous. Moi, je trouvais très intéressant. Parce que c'est le moment que les gens parlent. Parce que la plupart du temps, dans ce séminaire, on écoute. On est là et quelqu'un, le maximum, on bavarde, on pose des questions, on parle de ses voisins un petit peu. Mais en général, c'est ça, on écoute. Là, les groupes réflexifs, non, les gens s'assoient, ils parlent. Et ceux qui sont en train de parler vont écouter. Ça y est, ça suffit, vous écoutez alors les jeunes. Il y aura un groupe spécial pour les jeunes. C'est-à-dire, on aura les trois axes. L'eau, parce que c'est une demande spéciale aussi, et finalement les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes pensent de tout ça? Parce que c'est eux qui vont être au pouvoir dans 20, 30 ans, quand si les scénarios du climat mauvais se posent un jour, sont eux qui vont subir la dégradation des qualités de vie. Non pas nous, qui, au moins moi, pendant 2050, je n'espère pas être là. Sauf si c'est la médecine de trouver des choses extraordinaires, mais être comme ça, je ne veux pas. Mais si m'y permet de fonctionner, oui, d'accord, j'irai ici, je serai là aussi. Bon, ça, c'est un peu les choses. Une chose importante, c'est tous les visitants, tous les participants, lundi, ça va commencer à 17h, lundi à 10h du matin, sont invités à planter des arbres pour qu'on fasse un événement carbone zéro. Alors, tous vont être obligés de mettre la main à la terre, planter quelques arbres. On va faire comment on dit, pegada écologique. Empreinte écologique d'événements. Et il y a déjà trois doctorants et un prof qui sont en train de faire ça. Le terrain est déjà prévu, les petites plantes et tout ça. Donc, il va. Et un groupe d'étudiants vont s'occuper que ces arbres qui sont plantés grandissent, en fait. Parce que plusieurs fois. On le met là et puis mort. Ça y est, c'est rien. Quoi. Donc, il va y avoir un petit groupe d'étudiants à nous qui va continuer, accompagner, etc. Et pour ceux qui veulent, il y aura un petit tour dans la ville après, planter des arbres. Il faut planter d'abord. Ensuite, on prend le bus et on peut s'y promener. On voudrait, mais je ne sais pas si c'est possible, finir avec M. de Gamorin. Et il est pourquoi président des Maldives.
Pourquoi tu dis que c'est possible?
Non, non, avec M. Morin, et je dis, Morin, c'est possible, oui. Mais je dis les suivantes. Ah. Qu'il est, c'est le président des Maldives, que c'est le premier pays qui va disparaître si l'élévation de la mer monte. Et c'est le seul président du monde qui pense au monde. Il ne pense pas simplement à son pays. Tout le reste pense à ce pays et sa élection prochaine.
Mais nous avons ici un président qui pense le monde.
Ah oui. Je ne sais même pas s'il pense au pays, combien. Je ne sais même pas. Non, je dis rien. Je ne sais même pas. J'ai connu tous les présidents français des pays, M. Pompidou, parce que j'ai vécu ici plusieurs fois. J'ai un fils, j'ai un petit-fils qui est né ici d'ailleurs. J'ai connu tous. Je ne veux pas faire de comparaison. Donc, sont tous différents. Ce qu'on voudrait finir, c'est avec une danse indienne qui s'appelle Hommage à la sagesse. Essayez de demander à mes frères qui viennent pour faire cette danse, nous inspirer à prendre de bonnes décisions. Voilà. Merci, c'est tout.
Bien, écoutez, peut-être 10 minutes de un petit café, ou est-ce que vous voulez, vous voulez tout de suite la discussion, D'accord. Okay. Mais écoutez, il y a aucun problème. C'est comme ça. On était 3-4. Il faut écouter tout le monde. Donc ça fait 2 heures. Bon, vous voulez prendre la parole? Prenez la parole. Alors voilà. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Ah, madame, depuis le début, vous voulez prendre la parole. Bon, allez, prenez la parole, madame.
Bon, je vous remercie pour la variété des 3 invités avec 3 tonalités complètement différentes et très, très complémentaires. Alors, bon, là dans la salle, beaucoup me connaissent. Je suis Marie Legrand. J'ai été élue écologiste à Poitiers pendant 9 ans et vice-présidente de la région chargée de l'environnement pendant 6 ans. Et je suis actuellement représentante d'une association, je dirais, relativement puissante dans le Poitou-Charentes, qui s'appelle Poitou-Charentes Nature, qui a une délégation par département et qui s'occupe de problèmes d'environnement depuis 40 ans. Alors, si vous voulez, on n'a peut-être pas tous ici le même niveau de connaissances. Moi, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui, des choses aussi locales sur des pays que je connais un peu moins. Bon, sur certaines choses, j'étais déjà au courant, il faut quand même le dire. Alors, c'est sur notre ami Tyler Volk. Est-ce qu'il est parti?
Il est là.
Alors, cette intervention, je dirais, très chiffrée, très documentée, très comparative, est évidemment très intéressante. Simplement, certaines de ses conclusions étaient déjà réalisées sous une autre forme en France, à travers un outil très français qui s'appelle l'empreinte écologique, et qui montre déjà, depuis pas mal d'années, alors il se calcule. L'empreinte écologique se calcule à partir de l'équivalent par nombre par habitant des hectares nécessaires en terre arable pour pouvoir le permettre de vivre. Alors, sur actuellement, par exemple, un Français a besoin de 2 planètes. On retrouve votre chiffre 2-6. Un Américain, plus de 4. On retrouve votre chiffre aussi, calculé avec une base différente. Et actuellement, je pense qu'on est actuellement en consommation moyenne mondiale, limite, au-delà des réserves de la planète. Donc l'alerte a commencé. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu surprise dans la présentation de M. Volk, bon, ce qui m'a plu, c'est, je veux dire, l'honnêteté, la précision du travail, et puis l'importance du travail, mais c'est le manque de réflexion critique qui permettrait de dire, mais surtout, ne continuons pas cette courbe logarithmique. Évidemment, on peut avoir un vœu pieux, je dirais, très, très religieux ou non, de dire on veut que tout le monde soit heureux comme un Américain avec un niveau de vie équivalent. Mais vous voyez bien que ce n'est pas possible en question d'énergie. C'est en contradiction totale avec l'épuisement des ressources et les consommations énergétiques. Donc déjà, c'est un peu compliqué. S'il n'y a pas une réflexion de fond, je dirais, sur une rupture. Bon, alors certains peut-être ont réfléchi à la question. Pour moi, il y a une nécessité de rupture absolue de notre mode de développement mondial. Un mode de développement, je dirais, qui est assez dominant en Europe, aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays. C'est-à-dire l'ultralibéralisme sur 2 plans, sur 2 questions. La question de l'énergie et la question de la fourniture des aliments humains, la consommation humaine. Sur la question de l'énergie, enfin, il y a eu quand même pas mal de documents grand public depuis quelque temps, jusque-là c'était un peu secret, qui révèlent la catastrophe liée au rôle des compagnies pétrolières depuis presque un siècle, qui ont provoqué un nombre conséquent de guerres mondiales ou de guerres telles que Irak, Golfe et d'autres. Hein, le rôle des compagnies pétrolières, quand même, au-delà des États, est quelque chose de tout simplement scandaleux. Alors, en France, on a un autre modèle. C'est un système plus étatique. C'est le système du lobby nucléaire plus étatique, mais qui est quand même pas mal aussi. Je pense qu'il faut qu'on s'oriente mondialement sur une autre manière de produire de l'énergie, une manière beaucoup plus décentralisée et locale. Sur l'exemple d'un petit exemple autrichien du secteur de Güssing, qui produit localement toute son énergie. Et ce système peut être mis en place facilement dans pas mal de secteurs européens. Alors au Brésil, je ne sais pas, mais sûrement aussi. Hein. Et puis la deuxième, alors premièrement, je dénonce et je redis, les systèmes, les compagnies pétrolières, les compagnies énergétiques qui sont au-delà des gouvernements et des États et qui sont complètement dans le système de la finance internationale, donc il faut une rupture avec ce système. Et deuxièmement, le mode de production alimentaire, en particulier celui des États-Unis, qui est quand même, je dirais, un des pires du monde, où la production alimentaire est à plus de 90, voire plus pour cent, aux mains de quelques lobbies de production, je dirais un peu offshore, où on ne sait plus à partir de quoi ça a été fabriqué au départ. Bon, attendez, là, il faut revenir en arrière sur des productions locales, décentralisées, qui échappent à des grands lobbies de l'agroalimentaire et de la chimie, comme l'ont parfaitement démontré en France quelques ouvrages récents sur Monsanto et ce poison qui vous nourrit, d'Isabelle Saporta. Donc, pour moi, voilà, c'est un phénomène
Madame,
de
vous
rupture.
Avez il y a des questions
de rupture.
Dans votre... Il n'y a pas de questions.
Non, mais ma question, c'est... Il y a nécessité d'une rupture avec un mode économique avant de se lancer sur des graphiques. Hein.
Ah,
c'est une question que vous... politique.
Ah, mais je pensais qu'il y avait
j'aimerais son point de vue, peut-être.
Oui,
son point
c'est bien.
De vue.
Non, c'est... J'avais posé une question.
Moi, je veux dire quelque chose sur l'empreinte écologique, mais très très vite.
Because you quoted the numbers of four planets for the United States and two planets for France.
Là, vous venez de parler de quatre planètes pour les États-Unis et deux planètes pour la France.
So I know Matthias Vachter-Nagel, who's the main proponent of the ecological footprint, and he's done a lot of good, and I really admire him.
Je connais celui qui a introduit en fait cette notion d'empreinte écologique et j'ai beaucoup d'admiration pour lui.
But those numbers, when I heard them, there's something that doesn't make sense in that if we needed four planets, you know, we'd be dying right now.
Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chiffre, il y a quelque chose qui ne colle pas au sens où si on a besoin de quatre planètes, on serait en train de mourir tous actuellement.
And so if you go into those numbers, the really big part of that number is that they use to compensate for the carbon dioxide. They say how much forest would we need to bring down that carbon dioxide.
Et donc en fait ce qui va pas avec ces chiffres c'est que ce qu'ils disent c'est, si on regarde dans le détail c'est que si on force la production de dioxyde de carbone. En fait,
So part of the footprint, they are putting everything in terms of land.
En fait, ils raisonnent en termes de terre, hein, pour l'empreinte écologique.
And so to figure out to solve the carbon dioxide problem, they are saying if we grow. How much land would we need to grow forest to take up that carbon dioxide?
Voilà, en fait, leur raisonnement, c'est pour résoudre le problème du CO2, en fait, c'est en termes de terre, c'est-à-dire combien de surface de forêt nous faudrait-il pour absorber en fait le dioxyde de carbone?
And they also use something called the average productive hectare. They do not figure in highest yields the highest yield possible per hectare.
Oui, en fait ils utilisent un concept qui s'appelle l'hectare productif et ils ne prennent pas en compte le rendement optimum par hectare.
And so there's other ways of maybe taking up the carbon dioxide. There's other ways you could pull it out of the air chemically. Or we could even say we can accept a certain level of carbon dioxide. Don't have to bring it all the way back down.
En fait, il y a d'autres méthodes pour réduire le dioxyde de carbone. Peut-être on peut utiliser des produits chimiques pour le disperser. Et puis on peut aussi prendre la position de dire peut-être qu'à un certain niveau, ça reste satisfaisant.
So what I would prefer to do is because it's very useful, but I want to just, and I agree that the world has a problem. Okay, I totally agree with you.
Alors, moi je suis totalement d'accord avec vous. Le monde a un problème, mais il faudrait prendre les choses différemment.
But I think each input, you know, the fish, the meat versus vegetables, energy, they should be treated as separate needs. It's perhaps not the best way to think about the problem is to only put it in terms of how many earths we need.
Donc chaque input, en fait, que ce soit la viande, le poisson, etc., doivent être traités séparément et pas en termes de combien de planètes, combien de terres est-ce que nous avons besoin.
But I agree. We're probably going to need 2 to 3 times as much energy. How are we going to double the fish production? How are we going to have 4 times the wood production? So I would like to, if we look at some of these numbers, I think each one should be treated separately because figuring out how to double the fish production is something different from figuring out how to increase the wood production or to decrease the need for wood production or to decrease the need for fish.
En fait, chacun de ces paramètres doit être traité séparément et différemment. C'est pas la même chose de dire il faut réduire la production de bois que de dire il faut réduire la production de poisson, par exemple.
J'ai pas eu ma réponse sur le modèle économique.
Ami, viens pour le temps. Voilà.
Moi, il me semble que la question de la discussion sur l'indicateur, est-ce que l'indicateur de l'empreinte écologique est le seul, et donc la traduction de tout en unité d'empreinte écologique, c'est-à-dire effectivement de terrain, est suffisante ou pas. Bon, on peut en discuter. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas tout réduire à cela. Mais la question absolument essentielle qui quand même frappe, même dans votre intervention, madame, avec qui dans l'ensemble je suis d'accord, c'est le problème de la gouvernance mondiale. Je veux dire, vous nous dites il faut que on fasse ceci, il faut qu'on fasse... Mais comment ? Quelles sont les forces sociales pour y arriver ? Comment mobiliser les opinions publiques ? Comment aller vers ceci et cela ? L'intérêt d'avoir écouté notre ami brésilien, c'était de montrer qu'il y avait un autre point de vue. Ils sont dans une autre condition, dans une autre logique. Bon, ils ont d'autres ressources, d'autres possibilités, etc. Et donc, ils posent le problème autrement, de la même façon, etc. Donc, je crois que la question, une des questions décisives, c'est ça, déjà. Le gouvernement mondial vers, si on considère qu'il faut changer, mais comment on va changer ? On ne va pas décréter ça par une dictature nouvelle qui va nous arriver. Donc moi, j'avais une question à poser à notre collègue brésilien sur Rio 2012. Bon, tu nous as dit on a enlevé la pauvreté. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, moi je me pose la question sincèrement. Est-ce qu'il y a une régression, disons ça comme ça, ou pas ? Je pose honnêtement la question, je n'ai pas d'idée encore vraiment précise. Entre Rio 92, où il y avait les trois piliers, où il y avait trois nécessités qui devaient être prises en compte, et il n'y avait pas la gouvernance. Mais on considérait qu'il n'y avait pas de gouvernance mondiale à l'ordre du jour vraiment. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, où on a le problème de la gouvernance mondiale qui est mis à l'ordre du jour. Ça, c'est vraiment une nouveauté. La green economy, dont on pourrait la comparer à développement durable de pain. Et puis le fait qu'on a enlevé la pauvreté. Alors, bien sûr, des pays ont sorti leur population de la pauvreté. D'abord, ce n'est pas le monde entier. Et puis, d'autre part, la pauvreté a été remplacée, si on peut dire, par un problème d'inégalité majeur partout. À la fois dans les pays riches, les nôtres, mais dans les pays émergents, et on le sait bien, l'Inde, la Chine, et sans doute le Brésil, je connais moins bien. Et puis, bon, voilà, partout en Afrique, il y a des classes moyennes qui s'enrichissent et qui deviennent des riches qui s'enrichissent, et d'autres qui vraiment sombrent. Et donc, voilà, avec la crise économique, ça s'accentue. Alors, comment tu apprécies, toi, un peu cette évolution ?
Merci, Amis. C'est très bonne ton intervention, parce que la mienne peut être donnée un coup un peu trop négatif. Et comme ça, on cherche l'équilibre de la vérité, de la correspondance avec les faits qui passent. Il y a une avance très très bien notée pour vous, c'est le dessein d'une gouvernance ambientale, c'est-à-dire surtout un désir et des mouvements dans cette direction. Il faut voir une gouvernance mondiale pour l'environnement pour pouvoir faire des concertations entre les gens. Ça, c'est un. Oui, d'accord. Ensuite, j'ai fait compléter en disant, mais ces désirs, ces mouvements pour faire cette gouvernance, ils dépendent de certains personnages et de certains acteurs qui n'ont pas encore donné son accord. Hein. C'est-à-dire, on n'aura pas une gouvernance environnementale, n'importe laquelle, sans la Chine et sans les États-Unis, par exemple. Tous les deux ont fait des petits mouvements dans la direction de l'accord, c'est vrai, mais sont encore des petits mouvements. Hein. On attendait qu'avec Obama, on avançait davantage, et on entendait qu'à cause des gros problèmes que les Chinois commencent à vivre il y a 10 ans, ils marchaient davantage dans le sens de la protection de l'environnement. Ils marchent, ils ont fait des progrès. Hein. Et peut-être plus que d'autres pays, à cause du système de gouvernement qu'ils ont. Hein, parce qu'ils peuvent décider des choses stratégiques et le faire. Hein. Donc ils ont avancé, et peut-être ils vont avancer encore plus, et on aura probablement des surprises, des bonnes surprises, par rapport aux Chinois dans les années prochaines. Mais la gouvernance est encore un projet, c'est encore des mouvements qui commencent, mais qui n'est pas encore fait. Il faut commencer. Donc, c'est en progrès s'il avait commencé. L'économie verte, il y a beaucoup de choses dans l'économie verte, mauvaises et bonnes, et plutôt plus mauvaises que bonnes, plus de la pub que de la vérité. Enfin, l'intéressant dans l'économie verte, à mon avis, c'est une chose, c'est ce mouvement d'innovation technologique qui cherche des solutions nouvelles pour vivre, hein, qui a des signes ici et là, dans plusieurs parties du monde, mais qui n'est pas encore un mouvement assez robuste, assez fort, pour provoquer vraiment le changement de modèle. Il est loin de là encore, mais c'est quelque chose d'intéressant. Au niveau de la pauvreté, évidemment qu'il faut faire des différences entre les pays et entre les parties du monde. Mais c'est vrai que dans les grands pays peuplés du monde les plus pauvres, le combat de la pauvreté a beaucoup avancé. Dans d'autres pays, non pas. C'est vrai. Et à partir de là, quand j'ai dit qu'il a avancé, ce n'est pas, je ne veux pas dire que le problème est résolu, loin de là. Mais on trouvait le chemin. C'est-à-dire, bon, voilà, on trouvait le chemin. Le gouvernement brésilien arrive aujourd'hui à mettre l'argent à la main du pauvre. Parce qu'avant, l'argent qui était décidé pour aller aux pauvres, il était sans, il avait quelqu'un qui piquait, il arrivait deux ou trois à la main du pauvre. parce qu'il avait beaucoup du monde qui piquait avant. Vous voyez ? Maintenant, non, il vient avec sa carte bancaire, il paf, il prend son 10 reais, enfin 2 euros pour l'aider. Donc on a trouvé des chemins, le contrôle social, tout ça. C'est résolu ? Non, évidemment, ce n'est pas résolu. Hein? Parce qu'il dépend beaucoup du gouvernement, beaucoup encore d'assistance, n'a pas assez d'autonomie, enfin, il a beaucoup de problèmes encore. Mais le chemin a été commencé, et ça, c'est important. Et dans la mesure qu'il a commencé et qu'il y a des gens qui commencent à changer des patamas, des degrés, ça change aussi beaucoup de choses. Hein. Par exemple, l'économie brésilienne et hoje, la dynamique, ce n'est pas à cause de l'extérieur, c'est à cause du marché intérieur. C'est des milliers de gens qui commencent à avoir d'argent, et pas simplement avoir d'argent, avoir des crédits. Hein, parce qu'une des choses qui caractérise les pauvres de mon pays, ce n'est pas qu'ils gagnent peu, c'est qu'ils gagnent irrégulièrement. Donc, un jour, il a d'argent, l'autre jour, il n'a pas. Donc, il n'a jamais de crédit. Au moment qu'il reçoit 10 reais du gouvernement, il a du crédit parce qu'il a une source constante. Alors, les trucs qui vendent les pierres, de l'eau, des haricots, etc., il fait les crédits parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il a 10 euros, il fait faire ça. Ça change complètement les choses des gens. Non? Et surtout que cet argent est mis sous la main de la femme, de la mère, et pas d'homme. Parce que non, c'est elle qui a le sentiment de la vie, de l'avenir, non l'homme. L'homme sont en principe un petit peu canaille, excusez-moi, les hommes qui sont à la salle, sont un peu ici, un peu là, etc. Et là, non, ils sont là et elles attendent. Oui, ils sont un peu. C'est ça qu'on dit au Brésil. Hein. Excusez-moi, je ne parle pas de français, je dis pas de brésilien. Non, non. Mais si vous voulez remplacer deux endroits, c'est à vous. Je parle de mon pays, ils sont un petit peu canailles tous, mais les femmes, non. Les femmes, ils ont compromis avec la vie, l'avenir. Donc, c'est ça la question. Alors, ce qu'on attendait, c'est que justement, cet mouvement de protection et d'innovation technologique dans le sens d'une économie différente, ça pouvait pousser davantage parce qu'il y avait des pays développés, les États-Unis qui commençaient à s'approcher, et puis des pays grands comme le Brésil et la Chine aussi. Donc, il semblait, il y a un an et demi, qu'une concertation du bien allait s'y faire. Et pour l'instant, je ne sais pas si ça va se faire. C'est ça ma interrogation.
Je voudrais tout simplement, et moi j'adore Lima parce qu'il est très optimiste. Bon, et il a toujours cette capacité de pouvoir renverser des situations quand on voit qu'il n'y a pas d'issue. Mais je pense qu'un optimiste, c'est un pessimiste bien informé. Donc il est bien informé pour être pessimiste, optimiste. Mais moi je dis quand même, il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la question de la gouvernance, ils nous ont vendu ça fait déjà plus de 20 ans. Arrêtez avec l'histoire de la gouvernance. Nous sommes aujourd'hui dans un processus d'ingouvernabilité et pas de gouvernabilité. Et si on fait le bilan, et on ne l'a pas fait non plus, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tous les grands rounds mondiaux avec la fameuse gouvernance mondiale ? Échec, échec, échec. La seule chose qu'on a pu au moins entrevoir quelque chose de positif, ben, ce fut l'accord sur la biodiversité. Et encore, ça a été vraiment à la dernière minute. Donc, je sais pourquoi ils ont mis la gouvernance à Rio plus 20. Parce que c'est la seule chose où tout le monde pratiquement est d'accord. Voilà. Et personne ne va dire non, il faut effectivement un gouvernement mondial pour gérer. Mais sous quelle forme ? Qui ? Comment ? Donc là, il y a un véritable problème. On l'a pointé à Dijon. On a fait plus ou moins le bilan, mais on a pointé certaines défaillances. Et moi, je pense qu'ils vont noyer le poisson avec la question de la gouvernance. Moi, je suis sûr et certain. Il ne sortira absolument rien si on se laisse enfermer là-dessus. Ça, c'est une chose. La deuxième, il faut reconnaître, et ça, c'est vraiment le mérite du Brésil, c'est d'avoir joué en fait avec un modèle à la fois très ouvert et en même temps très volontariste. Donc, tout ce que dit Elimar, on signe en bas, c'est parfait, mais c'est le Brésil. Ben oui, c'est le Brésil. Nous, on essaye de voir comment on peut justement transposer ces 10 ans, 12 ans de politique sociale au Brésil qui ont donné des résultats. Et combien? 30 millions de familles, de personnes? Et en 10 ans, c'est énorme, énorme. Et quand tu dis les pauvres, ils ont une carte pour aller retirer l'argent, personne ne les pique de l'argent. D'accord, mais c'est ça, pas au Chili, pas en Afrique, pas en Amérique latine. Donc c'est effectivement, pour moi, c'est véritablement une spécificité brésilienne qu'il faut effectivement tenir compte, c'est important. Notre ami, aujourd'hui président du Sénat au Chili, qui vient très souvent à nos universités d'été, ils ont été au gouvernement pendant 20 ans, un gouvernement social-démocrate. Ils montraient les chiffres. Nous avons réussi à baisser énormément la pauvreté, énormément. Mais on a croître les inégalités. C'est hallucinant. La manière comment le Chili aujourd'hui est inégal. La preuve, c'est que vous avez pratiquement toutes les semaines des centaines de milliers de jeunes dans la rue en demandant justement une autre modèle. Donc, il y a effectivement une tendance qu'on peut considérer qui peut être intéressante et positive. C'est la raison pour laquelle on a fait le séminaire au Brésil. D'accord ? C'est parce que ça nous intéresse de voir qu'est-ce qu'ils vont dire aussi nos amis brésiliens à l'intérieur. Parce que peut-être, et pourquoi pas, le Brésil est en train de nous montrer peut-être une autre voie. À condition aussi, ça c'est le débat qu'on aura sur place, à condition que la question peut-être environnementale soit peut-être reprise d'une autre façon, elle puisse aussi être sous la table et on puisse également voir qu'il y a des efforts importants.
Juste un mot avant de passer, c'est suivant. Dans la constitution de mon pays, c'est écrit trois objectifs macro, trois grands objectifs. Le premier, c'est la éradication, la extinction, la élimination de la pauvreté. La pauvreté est considérée immorale. Mais le deuxième, c'est la réduction de l'inégalité, non l'extinction de l'inégalité. C'est-à-dire que l'inégalité, elle est légitime juste un certain moment. À partir du moment où elle n'est plus. Mais elle est légitime et la pauvreté n'a jamais légitimité. C'est ça qui est important pour savoir. Il faut réduire l'inégalité, c'est vrai. Mais il faut éliminer absolument la pauvreté parce qu'elle est morale.
Ça marche. Oui, je voudrais intervenir sur les économies vertes. Bon, je suis actuellement directeur d'un groupement de recherche entre le CNRS et l'INRA. D'ailleurs, je crois que l'INRA. Dont le titre s'appelle « Quelles agro-ressources pour les produits et les matériaux du futur ?» Bon. Et je suis également membre de la division de chimie industrielle parce que j'ai beaucoup de relations avec le milieu industriel. Et je fus représentant au niveau de l'Europe du groupe Chimie Verte, représentant français au niveau de l'Europe du groupe Chimie Verte. Et je suis chimiste, ce qui n'est pas une tare. Bon, il y a deux choses qui nous polluent l'existence. Qui nous ont pollué l'existence, c'est la gouvernance et l'énergie. Et avec ça, on n'avance pas. Et on a quand même besoin de développer de l'économie. Je vous annonce qu'en France, si vous ne savez pas, par exemple, depuis l'année 2007, la chimie a perdu 50 000 emplois. Bon, c'est quand même pas rien. Donc on commence à être inquiet, sérieusement inquiet, sur l'avenir de la chimie en France. On avait 250 000 emplois en 2007, on n'en a plus que 170 000 ou 180 000 aujourd'hui. Ça ne tient pas uniquement à l'aspect développement économique, ça tient également à un quatrième pilier qui est l'aspect financier, puisqu'on a eu des élites qui ont quand même vendu pas mal notre chimie à l'extérieur. Bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Revenons aux économies vertes. Si nous, on a pris la position, et c'est une position nationale qui se retrouve dans les programmes interministériels, qui se retrouve dans les programmes de recherche, qui se retrouve à l'INRA, qui se retrouve au CNRS, qui se retrouve au CEMAGREF, partout où vous voulez. L'énergie, si on continue à prendre en compte l'énergie, on ne s'en sortira pas. De toute façon, Marie Legrand l'a confirmé, on ne peut pas remplacer l'énergie par le naturel non fossile. Ce n'est pas possible. Je parle de carbone. Donc, par contre, on peut utiliser efficacement du carbone renouvelable pour faire de l'intermédiaire ou pour faire de la chimie des produits de tous les jours. Les tonnages sont à peu près compatibles. Mais tant qu'on a été pollué par les aspects énergétiques, on n'a pas pu développer une économie, une croissance verte, une économie verte basée sur l'utilisation rationnelle de plantes ou de cultures dédiées. On commence à s'y mettre. Il faut trouver, en France, ce n'est pas facile parce qu'il faut trouver les financements. Mais l'Allemagne va plus vite, les pays nordiques vont plus vite, et les États-Unis plus vite, et le Brésil avance bien. On a une collaboration avec le Brésil avance bien dans ce domaine. Bon, le Brésil est un peu astucieux parce qu'il joue à la fois sur l'énergie, et le sucre, par exemple. Bon, ouais. Donc, un coup, l'éthanol est cher, hop, je fais de l'éthanol. Un coup, l'éthanol n'est pas cher, je fais du sucre. Bon, ça, mais... bon.
Parce qu'il y a quand même du sucre.
Non, mais on n'arrive pas à monter des programmes parce qu'il y a toujours l'aspect énergétique qui vient en priorité. Et donc, les aspects, les autres applications non énergétiques ne sont pas prises en cause. Parce qu'on a une civilisation qui est gouvernée par l'énergie. Les graphiques de Tyler le montrent. C'est clair. Si la moyenne est d'un pour à peu près dans le monde, c'est parce que toute l'économie est basée sur l'énergie. Point. Donc, il faut une rupture dans le domaine de l'énergie. Et nous, on a décidé de ne pas prendre en compte l'aspect énergétique pour développer une économie verte, parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Et je pense que c'est une stratégie qui commence à voir le jour. Bon, il n'y a pas encore une économie extrêmement développée, mais si on prend le cas de la France, il y a quand même tout le bassin de la Champagne, tout le nord maintenant, et un peu le Midi-Pyrénées, qui commence à fonctionner sur des petites unités ou des grosses unités. La notion de bioraffinerie, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça commence, il y a une grosse bioraffinerie qui est en Champagne qui commence à tourner et qui commence à créer, je ne sais plus combien d'emplois, mais il doit y avoir maintenant 1 000 emplois. C'est pas mal. Donc, ça permet de fabriquer, de remplacer. Mais on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix et pour remplacer le carbone fossile. Ça, c'est le premier. Et il faut faire des choix avec le milieu industriel, parce qu'il y a des installations qu'on ne pourra pas remplacer. Donc, si on veut être astucieux, il faut également travailler dans le domaine des procédés. Bon, c'est un peu technique ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Parce qu'il est parfois utile d'utiliser des installations existantes plutôt que d'essayer de trouver des moyens pour remplacer des installations. Ce que je voulais dire, c'est que l'économie verte, ça peut fonctionner, mais à condition qu'on mette le moyen sur cet aspect et qu'on arrête de nous bassiner avec l'énergie. Parce que l'énergie, c'est un autre problème.
Plus de questions? Je vois que tout le monde est fatigué là.
Ah oui, bon. Normal.
Écoutez, donc on va arrêter par ici. Et d'abord, je tiens à remercier vraiment, comme d'habitude, nos amis qui sont là pour nous épauler. Grâce à eux, on peut communiquer avec des gens qui viennent de l'étranger, qui ne parlent pas le français. Je veux remercier très fortement Jean-Charles et Jérémy, qui est toujours présent.
Il y a Maud aussi.
Mais c'est vos étudiants. Ah, mais voilà, bravo. Donc, merci. Et puis, je veux vraiment remercier... Ami, pour avoir eu la gentillesse de se déplacer aujourd'hui. Je sais que nous sommes à la rentrée universitaire, tout le monde est très pris, c'est catastrophique, et c'est tout le temps, tous les ans la même chose. Et un grand merci pour aujourd'hui, mais on va continuer demain avec notre ami Taylor. Merci beaucoup, ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir ici, vraiment. Et je pense qu'on va continuer à travailler ensemble. Et vraiment, c'est... On a beaucoup de choses à se dire et à partager. Et merci à vous pour avoir et répondu à cette convocation. Merci à l'Espace Humain de France, à son directeur. Merci à tout le monde. Merci à la régie. Merci à tout le monde qui a préparé ce séminaire. Céline, Agnès, merci. Merci à tout le monde. Allez, au revoir. À la prochaine.